Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Nous allons parler aujourd'hui de l'évangélisation. Comment faire de l'évangélisation? Je vais traiter aujourd'hui la question de l'évangélisation sous un angle un peu particulier.
Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est tout puissant, il est absolument souverain, comme il dit, il est son propre conseiller, mais en même temps, il n'est pas dangereux. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il a la puissance sans que sa puissance soit une menace. Ce que je dis là est très important. Souvent, quand on dit que quelqu'un est puissant, il est presque toujours dangereux. Il est toujours dangereux sur la terre. Un homme puissant est toujours un homme dangereux. Sur la terre, parmi les hommes, un homme puissant, dont la puissance est sans limite, est toujours un homme dangereux. À cause du peu de fiabilité de l'homme, à cause du manque de fidélité de l'homme, à cause du manque de précision, de sagesse de l'homme. Et comme l'homme dans notre inconscient, nous avons pris l'habitude de voir tous les gens puissants sont dangereux, et généralement on les traite bien plus parce qu'on les craint que parce qu'on les aime. Nous avons tendance à répercuter cette perception des choses-là sur Dieu. Moi y compris. Il y a des fois quand je découvre la puissance de Dieu, j'en suis intimidé et inconsciemment j'ai tendance à me dire mais c'est dangereux après tout ce Dieu-là. Je ne sais pas si vous êtes sincère, à moins que vous ne connaissiez pas Dieu. Vous avez dû arriver à des moments où vous dites mais à la fois vous êtes émerveillé par la puissance de Dieu, mais elle vous fait peur. C'est là où des gens comme Isaïe et d'autres diront « Malheur, car j'ai vu l'Éternel. » Parce que quand tu vois la puissance de Dieu, si tu dois réagir comme on réagit en tant qu'homme normal, tu ne peux que te sentir en danger. Et si ce n'était pas Dieu que tu croisais quelqu'un qui a fait un rôle de pouvoir là, tu es fini. Il va faire de toi ce qu'il veut. Oh, la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est très puissant. C'est vrai qu'il peut faire de nous ce qu'il veut, mais c'est encore plus vrai qu'il est amour. Et c'est là où la nature amour de Dieu change tout. Satan a peut-être le millième des pouvoirs de Dieu, même s'il a plus de pouvoir que tous les hommes réunis, mais il est d'ange de l'amour, il n'y a pas d'amour en Satan. Et donc tout ce que Satan a comme pouvoir, il l'utilise par abus de pouvoir, faisant comme il veut, sans avoir aucun souci pour le bonheur des gens, sans avoir de l'amour. Or, Dieu a les pleins pouvoirs, mais sa nature, ce n'est pas un choix ponctuel, sa nature étant amour, il n'exerce son pouvoir, sa puissance, son omniscience, son omniprésence que dans les limites de l'amour. L'amour qui va aussi avec la fidélité, l'amour qui va aussi avec le fait que, étant fiable, Dieu ne fait pas ce qu'il veut, même s'il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut dans la limite de rester cohérent et fidèle à lui-même. Il est tenu par sa propre parole. Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand Dieu t'a dit quelque chose, tu peux l'interpeller dessus pour dire tu es Dieu, d'accord. Mais justement parce que tu es Dieu, à partir du moment où tu as dit ça là, tu es obligé de respecter ça parce que toi tu es Dieu. Et c'est là où Dieu dira, si j'ai oublié une de mes paroles, rappelez-la moi. Si je dois quelque chose à quelqu'un, qui me le dise. Parce que Dieu étant Dieu, que ça lui plaise ou non, il est lié par ses paroles. Vous allez voir quelqu'un comme David, auquel Dieu a promis que le pouvoir ne quittera pas sa maison, que ses descendants vont toujours régner. Mais quand Salomon est venu faire des bêtises, normalement Dieu devrait se fâcher si c'était un homme ordinaire qui a fait pouvoir et retirer simplement le pouvoir royal des mains de Salomon. Mais non seulement Dieu a été clément en disant à Salomon, bon, comme j'ai promis à David de ne pas retirer le pouvoir à sa famille, je vais vous sanctionner, mais je te laisse mourir d'abord. Première chose. Et même après ta mort, Dieu n'a pas retiré le pouvoir à la famille de David. Il a divisé Israël, en tout cas, et Juda en deux. Il a donné 10 des tribus, donc Juda, à quelqu'un d'autre. Mais il a conservé, simplement à cause de cette promesse, au moins les deux tribus-là, aux descendants de David, jusqu'à ce que Jésus vienne comme étant un descendant de David. Et souvent, les gens vont dire, mais diable, là, il fait tellement de désordre. Si Dieu est puissant, pourquoi Dieu ne détruit pas le diable? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand un homme donne quelque chose à quelqu'un, et demain la personne n'est pas d'accord avec lui, si l'homme peut reprendre, il reprend pour te faire mal. Mais c'est déjà du manque de fidélité. Ah, si tu n'es pas censé revenir sur ce que tu as fait. Dieu est tellement fidèle que, même quand Satan est en train de faire des dégâts, Dieu a bien envie de le... C'est facile pour Dieu en un instant de le désactiver. Mais si Dieu le désactive, c'est que Dieu a donné quelque chose et il a repris. Ce n'est déjà plus la fidélité. Donc Dieu va utiliser d'autres moyens pour arriver à bout de Satan, mais il ne va pas se répentir de ce qu'il a donné à Satan. Parce qu'il est un Dieu qui ne se répand pas, un Dieu qui ne se trompe pas, un Dieu dont le oui est oui, un Dieu dont le non est non. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je crois que Dieu veut que nous nous rappelions à quel point il est digne de confiance. Celui qui est tellement fidèle à ce qu'il a dit, qui laisse Satan créer tous ses dégâts dans le monde, simplement pour ne pas se contredire, je crois que quand vous voyez qu'il a dit quelque chose, vous pouvez en dormant lui faire confiance. Et si nous sommes d'accord, et c'est ça la foi c'est d'entendre la parole de Dieu, d'y croire. Et si nous avons la foi, ça ne doit pas être que la foi dans le sens de dire Dieu va me donner telle chose. La foi, c'est la foi dans l'alliance. La foi, c'est la foi dans la nature de Dieu. Parce que l'alliance est entre Dieu, dans sa nature et nous. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en Dieu lui-même, c'est-à-dire connaître Dieu. Mais avoir foi en ce que Dieu a fait avec nous, en l'alliance qu'il a tissée avec nous. Et cette alliance-là, qu'il s'agisse de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, ou de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, cette alliance, comme tout contrat, contient toujours deux parties. Il y a les obligations de chaque partie. Les obligations de l'homme et les obligations de Dieu. Personne ne peut se prévaloir d'un contrat et revendiquer les avantages d'un contrat pour lui en considérant que c'est un détail que ses obligations. C'est le respect de tes obligations dans le cadre de ton contrat qui te qualifie pour exiger tes droits. Si tu ne respectes pas toi-même tes devoirs dans un contrat, tu ne peux pas revendiquer tes droits. Et ça, c'est le béaba. Le contrat de location de ton appartement ou de ta maison là où tu habites dit que le propriétaire n'a pas le droit de te sortir sous réserve que tu payes le loyer. Mais quand tu ne payes pas le loyer, tu ne peux pas venir dire que tu as le droit de ne pas être sorti, que tu es chez toi. Mais ce que l'homme fait avec Dieu tous les jours, c'est de ne pas payer le loyer depuis 10 ans. Elle se dit à Dieu que pourquoi Dieu le fatigue? Il est dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu, pourquoi il ne le voit pas? Nous faisons tous cette grosse erreur qui est d'oublier trop facilement qu'il y a une corrélation entre la bénédiction, entre la faveur de Dieu, entre la grâce de Dieu, entre ce que Dieu nous donne et ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous de le connaître. Il attend de nous de lui donner notre vie. Il attend de nous de marcher par l'esprit, non pas par la chair. Il attend de nous de lui obéir, pas seulement de ne pas faire ce qu'il a dit de ne pas faire, mais aussi de faire ce qu'il a dit de faire. Et être un chrétien béni, être un chrétien qui porte des fruits, être un chrétien prospère, être un chrétien heureux, c'est aussi simple que de savoir que dit l'alliance avec Dieu dans le domaine où on attend Dieu. Quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils jouent les hommes de Dieu. C'est-à-dire les hommes qui ont le pouvoir par eux-mêmes de régler les problèmes. Je ne vais pas faire des hommes de Dieu qui ont le pouvoir par eux-mêmes de régler tous les problèmes, mais moi je n'ai pas ce pouvoir-là. Dieu n'est pas mon coursier auquel on demande des bénédictions. Dieu est mon Dieu. Et en tant que tel, il nous a déjà dit que le plus grand des sacrifices, ce n'est pas la prière. La prière est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. La louange est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. L'adoration est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Payer ses dîmes, payer ses offenses, c'est des choses qui sont très agréables à l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit à travers Saül, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout ça. Quand quelqu'un vient te voir et est célibataire à 44 ans ou à 50 ans, avant de commencer à prier, il faut retourner au contrat avec Dieu. Elle attend un foyer heureux. Elle attend un mari heureux. Mais est-ce qu'elle sait quelle est la contrepartie de ça dans le contrat avec Dieu? Généralement, non. Donc, Dieu dit, mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre. La main n'est pas trop courte pour vous bénir. Je suis pressé de vous bénir. Mais c'est moi qui suis en train de patienter le temps que vous parveniez à la repentance. Ce que Dieu pourrait dire à cette sœur-là, c'est, ton mari est là, ta famille bénie est là, mais c'est toi que nous attendons. Nous attendons que tu fasses ce qu'il faut pour l'avoir. Combien de femmes, par exemple, n'ont aucune idée de ce que Dieu considère comme une femme vertueuse? Combien de femmes, à cause de l'Occident aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'émancipation, n'ont pas de la femme la conception d'une femme émancipée qui porte pantalon, qui paye la moitié du loyer, qui paye la moitié des factures, qui est autonome, qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, qui essaie de ressembler aux hommes, qui essaie d'être brillant et de prouver qu'elle est une femme, mais elle fait tout ce que Dieu, les hommes peuvent faire. Je suis désolé pour vous, mesdames. Ce n'est pas ça la femme pour Dieu. Une femme comme ça n'a pas besoin d'homme. Si une femme se débrouille pour pouvoir faire tout ce que les hommes font, Dieu lui prouve que bon, elle n'a qu'à se débrouiller tout seul, elle n'a pas besoin d'homme. Dieu est logique, hein? Il a établi les femmes comme étant soumises à leur mari et devant leur obéir, tandis que les hommes doivent aimer leur femme jusqu'à être prêts à mourir pour elle, comme Christ a aimé l'Église. Il y a des hommes qui veulent se marier. Ils ne sont même pas prêts à payer un coca pour la femme. Encore moins payer sa coiffure. Donc ne parlons pas d'être prêts à mourir pour elle. Mais ils estiment qu'ils sont qualifiés pour le mariage. Vous n'êtes même pas capable de manger à votre faim. Et vous voulez prendre l'enfant de quelqu'un avec peut-être un enfant qui va en découler et devoir vous en occuper. Là où tu demandes encore à manger aux autres, là où tu n'es pas capable de payer un toit, tu es obligé d'aller dormir chez des amis. Être responsable, c'est ne pas chercher la femme de quelqu'un à ce moment-là. Tu n'es pas capable de t'en occuper. Et la Bible dit que un croyant qui n'est pas capable de pouvoir besoin de sa famille est pire qu'un païen. Il ne faut pas prendre la femme de quelqu'un et commencer à prier pour dire Dieu vient au secours. Parce que dans le contrat, Dieu ne t'a pas donné de rendez-vous avec une femme tant qu'il ne t'a pas donné les moyens de t'occuper de la femme de quelqu'un. Une femme aussi qui a été éduquée par sa maman. Ah, il faut faire ci, hein? On ne se fait pas ci aux hommes, hein? Si tu fais ça, va te monter sur la tête, hein? Il ne faut pas le laisser faire ci. Une femme qui a été éduquée. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui n'ont pas de mari, il y a différentes raisons. Mais l'une des causes principales du célibat des femmes, c'est que cette génération de femmes a été éduquée pour se rebeller contre l'autorité des hommes. Elles sont éduquées par leurs mamans qui sont généralement des divorcées ou des célibataires, en dessous, pour ne se mettre sous l'autorité d'aucun homme. Et pour toujours avoir un corps de rechange, pour toujours avoir de l'autonomie, c'est ton travail qui est ton mari. Donc, il y a une génération de femmes actuellement en circulation, pauvres d'elles, manipulé par Satan et l'Occident, qui est conçu pour être des rebelles, pour vouloir porter le pantalon dans la maison. Oh, aucun homme ne veut une femme qui porte le pantalon. Conclusion, les hommes se disent, surtout que maintenant, elles sont légères, on joue avec, c'est l'essentiel, mais personne ne veut signer un contrat, se mettre la corde au cou avec quelqu'un qui est rebelle. Conclusion, elles ont plein de contre-coupins, mais elles n'ont pas un seul mari. Où est le paradoxe? La méchanceté de Satan. Il y en a qui couchent avec 10 hommes dans la même journée, mais il n'y en a pas un parmi eux qui veut la mettre sous son toit. Quand une femme atteint un mari, elle fait quoi? Elles sont avec Pierre aujourd'hui, Jacques la semaine prochaine, Jean l'autre semaine, et tout le monde voit qu'elle se balade. Pendant qu'elle sort, elle dit que, bon, elle est en train d'attendre un mari. Quel homme voit une femme changer de copain toutes les semaines, être au restaurant avec tout le monde, être en boîte de nuit avec tout le monde, être au bar avec tout le monde, et décide de la prendre comme femme? Vous dites, oui, mais c'est à force de sortir avec les gens que je vais finir par trouver le bon. Mais aucun homme ne veut sortir avec ce que les gens sont en train d'essayer. Mais c'est pas comme ça que les gens cherchent mari aujourd'hui, en sortant avec un maximum de personnes, espérant que l'un d'entre eux va s'arrêter. Or, ces gens-là sont en train de s'amuser, ils ne sont pas dans la catégorie de mariage. Et les femmes ne le savent pas. Elle va dire, je cherche mari. Et il faut quand même que je l'essaie. Mais non, on n'essaie pas un mari. Un bon conjoint est un cadeau de Dieu. Et pendant qu'on atteint un cadeau de Dieu, on obéit à Dieu. Je connais même des femmes qui, pour Dieu, leur donner un enfant. Elles ne parlent pas, je dis, mais pendant qu'on est, tu es marié? Non. Mais tu n'es pas marié. Et tu demandes à Dieu un enfant avec qui? Oui, j'ai plein de copains, il faut que l'un d'entre eux accepte de me faire un enfant. Donc je dis, tu demandes à Dieu de permettre qu'un homme qui n'est pas le tien, peut-être le mari de quelqu'un d'autre, te fasse un enfant. Et ça, c'est une requête que tu adresses à mon Dieu. De te donner un enfant alors que tu n'as pas de mariage. Oui, il n'a qu'à me faire l'enfant, je vais m'occuper de mon enfant. Je peux m'occuper de mon enfant. Je mens, mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous donner un enfant quand on n'a pas de mari? Mais ces femmes-là ne sont pas de mauvaise foi. Elles ont grandi dans un environnement où Satan a tellement perverti les choses qu'elles ne connaissent que ce faux repère-là comme étant la norme. Des belles-mères qui, dès que leur fille n'est pas d'accord avec son mari, rentrent dans le ménage pour dicter la loi au mari. Et dès que le couple n'est pas d'accord, prends tes bagages et suis-moi. La femme aussi prend ses bagages et suit sa mère. Après, on dit qu'elle est mariée, mais on l'a déjà maudite dans la famille. Elle n'aurait jamais chez un mari, elle vient toucher la maison de papa. C'est un moment qui est mal éduqué, qui est une ancienne prostituée et qui croit que tous les maris vont accepter les prostituées. Aucune femme ne va tenir sur son mari. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes à cause de leur mère. Émancipation, égalité des sexes. Quand on a fait le nid à Satan, on vient demander à Dieu d'amener un mari dans ça. Les femmes qui ne savent plus faire la cuisine, elles ont des ongles en plastique qui font quand il y a du feu, donc elles ne peuvent pas faire la cuisine. Ou bien, je donne cet exemple, et ce serait dans tous les cas pour dire que si nous voulons que les gens soient sauvés, et en tant que personne qui va évangéliser, vous allez rencontrer des gens qui ont des problèmes. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller faire de la théorie aux gens. L'évangélisation ne doit jamais être théorique. Jésus n'a pas vu grand monde en lui disant, venez, je vais vous faire un discours ou un cours sur le royaume des cieux. Il prend les gens dans leur réalité pratique, dans leurs problèmes concrets, et il leur démontre qu'il règle le problème. Et quand il leur a démontré qu'il règle le problème, il leur donne la leçon qui s'ensuit, il leur dit de se connecter au royaume de Dieu pour ne pas perdre cela. C'est ça qu'il appelle, va et ne pêche plus. Et c'est pour ça que si nous avons reçu le pouvoir d'évangéliser, comme les 70, comme les 12, il nous donne aussi le pouvoir de faire des signes et des miracles. Parce que la conversion des gens commence souvent par un miracle et un signe. Par quelque chose qui se passe et qui leur démontre que ce que vous dites là est vrai. En tout cas, est plus vrai que ce qu'ils connaissaient. Cela peut être un miracle de guérison. Cela peut être une parole de connaissance que vous leur donnez. Cela peut être une prophétie que vous leur donnez qui s'accomplit. Cela peut être un sentiment de paix, de joie que le Saint-Esprit leur donne en votre présence. Mais il y a, ou alors parfois même vous leur parlez, alors qu'on leur a dit la même chose pendant 10 ans, ils ont toujours été rebelles. Le Saint-Esprit vous donne une autorité qui permet de toucher leur cœur, même ne savent pas qu'est-ce qui les a convaincus. C'est aussi un signe et un miracle. Ou alors vous arrivez à leur expliquer logiquement pourquoi ils ont des problèmes. Et donc, comment on sortit par rapport à ce que Dieu dit? C'est avec ce signe et ces miracles que vous établissez l'autorité du Dieu que vous servez. Et que les gens qui naturellement veulent voir d'autres signes et miracles vont se connecter à votre Dieu afin de le suivre. Mais faire des signes et des miracles, c'est activer la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu dans la vie des gens, dans les problèmes des gens. Mais ce n'est pas vrai que Dieu va agir dans n'importe quelle situation. Dieu ne se contredit pas. Une femme est prostituée, elle couche avec 5 personnes par semaine, changeant les copains n'importe comment. Elle dit, je cherche un mari. Toi, tu es pasteur, tu dis, ah bon, ok, viens, on va prier. Tu commences à prier pour Dieu lui donner un mari. Tu vas prier pendant des années. D'abord, ça va bousiller ta propre foi, parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas finir par te demander qu'est-ce qui se passe. Ça va bousiller sa foi, elle, si elle en avait un peu. Elle va voir que ça ne marche pas. Elle va aller de veillée en veillée, de soirée de délivrance en soirée de délivrance, de montagne de feu en montagne de feu. Elle va se balader, mais sans aucun résultat. Mais le jour, elle va rencontrer quelqu'un qui va lui enseigner la parole de Dieu, qui va lui démontrer que le Dieu qu'elle invoque là a telle loi, qu'elle viole, qui va la convaincre d'arrêter de violer ses lois, de se sanctifier et d'obéir à Dieu. Le jour où elle va commencer à s'obéir à Dieu et à attendre dans les lois de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, son mari, ce jour-là, son mari apparaîtra. Et ce miracle-là ne sera pas imputé à tous les autres hommes de Dieu qui ont bavardé, qui ont prié. Il sera imputé à celui qui aura servi la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Jésus est la parole. Lisez dans 1 Jean, il est la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. Si rien n'a été fait sans lui, le miracle c'est quelque chose. Aucun miracle n'a été fait sans la parole, ne peut être fait sans la parole. On ne peut pas faire de miracle sans la parole. La parole qu'on dit et la parole que l'autre reçoit et comprend. Une femme est querelleuse. Toujours à faire des histoires, toujours à se plaindre, toujours à bavarder, toujours à se battre avec son mari. Son mari s'en va, elle vient vous voir, priez pour que mon mari revienne. Donc elle commence à dire, au nom de Jésus, reviens. Quand on me dit quelqu'un fait du charlatanisme, ce n'est pas différent d'un charlatan. Même si c'est Dieu que tu invoques. Si tu invoques Dieu pour faire le contraire à la volonté de Dieu, tu es un charlatan. Il y a beaucoup de pasteurs charlatans. Il faudrait lui dire, c'est triste ma soeur, mais ce qui t'arrive, c'est la preuve que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu dit qu'il vaut mieux pour un homme vivre dehors que sous le toit d'une femme querelleuse. La proverbe. Tu es une femme querelleuse, ton mari est dehors. Il ne faut pas te fâcher. Ça veut dire que Dieu dit la vérité. Tout ce qu'il dit, il veille dessus pour l'accomplir. Donc, pour que ton mari revienne, ce n'est pas la peine de chasser Satan. Il faut obéir à la parole. Demande pardon à Dieu d'avoir été querelleur. Répands-toi de l'esprit de querelle et ne le querelle plus. Dieu dit que une femme doit obéir à son mari. Une femme doit être gentille. Une femme doit être la fierté de son mari. Une femme doit honorer son mari. Commence à faire tout ça. Et avant que je n'aie prié, ton mari sera venu à la maison. Si nous devons prier, c'est demander au Seigneur de te donner la force de faire tout ça. Demander au Seigneur de toucher le cœur de ton mari pour qu'il vienne voir que tu as changé. Mais si tu n'es pas prêt à changer, si tu considères ce que tu fais normal, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Et l'évangéliste qui rencontre les gens dans leurs problèmes ne doit pas se contenter de faire des choses superficielles. Dans tout métier, quand on veut soigner quelqu'un. Parce que le Seigneur nous dit que nous avons pour vocation d'aller soulager les gens qui sont accablés. D'aller apporter la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. D'aller libérer de leur prison des gens qui sont enfermés. C'est donc une opération commando qu'a un évangéliste. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour... On ne va pas évangéliser les gens juste pour le plaisir de leur faire dire « Oui, je donne ma vie à Jésus et après, on va les délivrer de l'enfer, on va les délivrer du monde pour les mettre dans le royaume de Dieu et qu'ils commencent à voir la gloire de Dieu. » Mais pour faire ça, la première étape de tout professionnel qui prend une mission, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. C'est ce qu'on pourrait appeler l'état des lieux. Il va voir un féticheur, il va jeter le phare pour consulter la situation. Tu vas voir un céleste, il va te faire une vision. Tu vas voir un docteur, il va te demander une analyse. Si tu vas voir un consultant, il va te faire un diagnostic. Si tu vas voir Jésus, il va te donner une parole de connaissance. Il va diagnostiquer quel est ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez savoir que dans tout domaine, il y a ce qu'on appelle des normes. Une norme, c'est ce qui est défini comme étant normal. D'ailleurs, ce qui arrive le plus souvent, ce qui est censé arriver si tout va bien. Chaque fois que les choses s'éloignent de la norme, il y a des problèmes. Si la température du corps doit être 37 degrés, quand ça arrive à 40 degrés, l'écart avec la norme est déjà trop grand, tu meurs. Si la pression ou bien le rythme cardiaque doit être de 12, tu te retrouves à 18, tu vas avoir des problèmes. Si ton moteur doit tourner à tel régime, il tourne à tel autre régime, tu as des problèmes. Il y a des normes dans la vie. Et toute personne qui s'écarte de la norme a des problèmes. Qu'est-ce qu'un consultant fait? Il regarde le problème. Il trouve la norme dont relève le domaine de problème. Et il compare ce qui se passe avec la norme. Comparant la situation avec la norme, il décèle les choses qui ne sont pas conformes à la norme. Je ne sais pas si vous me suivez. Et quand il décèle les choses qui ne sont pas conformes à la norme, ces choses-là sont l'explication du problème. Quand tu vas à l'hôpital, tu peux avoir le sida, n'importe quelle maladie, et tu as piqué une crise. Le docteur ne te fait pas d'abord analyse de sang. Il va regarder ce qu'ils appellent les cinq signes vitaux, je crois. Il va regarder si tu es anémié, il va regarder ta température, il va prendre ton pouls, il va prendre ta pression cardiaque, il y a quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils prennent encore. Il va vérifier cinq choses. S'il se rend compte, par exemple, que tu as 42 de fièvre, il ne veut même pas savoir de quoi tu souffres. Il te met d'abord un médicament qui doit baisser la fièvre. Si ta tension est trop élevée, il te met un médicament qui doit baisser la tension. Il force tous les signes anormaux par rapport à la norme à revenir à la norme. Dès qu'il fait ça, tu te sens mieux. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, vous avez le palu. Le palu ne guérit pas le même jour, mais dès qu'on vous met une perfusion, au bout de quelques minutes, vous vous sentez bien. Le palu est toujours dans votre sang. La preuve, des fois, les gens font des rechutes. Mais dès que le gars ramène la température, ramène un certain nombre de signes à la norme, tu te sens mieux. C'est maintenant qu'il va faire des analyses pour voir, mais pendant qu'on y était, qu'est-ce qui avait fait monter la température? C'est une infection? C'est une typhoïde? C'est un palu? C'est une grippe? Et il va commencer à analyser les signes qu'il a vus pour essayer de deviner qu'est-ce qui les a causés. Ça veut dire qu'il connaît la norme. Puis il ne sait pas que la température doit être à 37. Quand il voit 42, il ne va pas s'inquiéter. On ne peut pas soigner quelqu'un quand on ne connaît pas la norme. Quand vous allez vous balader, vous allez voir des femmes malheureuses. Si vous ne connaissez pas la norme d'une femme qui obéit à Dieu, vous ne saurez jamais en quoi le comportement de cette femme l'explique ses problèmes. Si vous voyez un enfant qui a des problèmes, vous ne connaissez pas la norme de ce qu'on appelle un enfant obéissant à ses parents, vous ne pourrez jamais lui dire pourquoi elle a des problèmes. Vous voyez un homme d'affaires, vous ne savez pas quelle est la norme de Dieu pour les affaires, vous ne pouvez pas lui dire pourquoi elle a des problèmes. Vous voyez un mari, vous ne connaissez pas quelle est la norme de Dieu pour un mari. Vous ne pouvez pas analyser son comportement pour voir où est-ce qu'il désobéit à Dieu pour avoir des problèmes. Vous voyez un serviteur de Dieu, vous ne savez pas quelle est la norme de Dieu pour un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner qui est vrai, qui est faux. Vous prenez une église, vous ne savez pas quelle est la norme de Dieu pour une église vivante. Vous ne saurez pas discerner dans quelle assemblée il faut rester, dans quelle assemblée il ne faut pas rester et qu'est-ce qu'il faut développer dans votre assemblée. Une fois encore, la connaissance de la parole de Dieu est nécessaire. Le peuple périt faute de connaissance. Et le problème de l'église, c'est que la plupart des évangélistes et des pasteurs sont des illettrés dans la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas même la parole de Dieu. Et ils pensent que le tout, c'est de prier, de prier, de prier, de prier. Si les prières seules réglaient les problèmes, il y a longtemps qu'il n'y aura plus de problèmes dans ce pays. Dieu peut dans sa souveraineté parfois régler un problème ou commencer à régler un problème, même si les gens n'ont rien compris. Mais ça, c'est comme des exceptions qui confirment la règle. Mais quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, que ça plaise ou non à Dieu, Dieu est obligé de le bénir. Obligé. À moins de ne pas être Dieu. Donc, l'exaucement, la bénédiction ne doit pas être le fait d'un hasard ou d'une chance d'être tombé sur un jour où Dieu est de bonne humeur. C'est la conséquence de connaître Dieu, de connaître l'alliance et de savoir à tout instant où on se trouve par rapport à l'alliance. Si tu es un vrai chrétien, quand tu as des problèmes, tu dois savoir pourquoi tu as des problèmes. Même si Dieu n'a pas réglé tes problèmes, il va te dire pourquoi tu as des problèmes et qu'est-ce qu'il attend de toi pour que tu n'aies plus de problèmes. Après, tu es libre de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Mais il va te le dire. Je ne voudrais pas que vous soyez des évangélistes de bavardage, d'incantation, d'agitation. Je vous dis toujours, je veux avec le Seigneur une génération d'évangélistes et de chrétiens qui ne sont pas des crétins. Trop de chrétiens sont des crétins. Tu arrives dans une maison, tu vois qu'ils n'ont rien à manger, qu'ils boivent même de l'eau sale. Tu as un enfant de 2 ans, manifestement, tu vois qu'on lui a donné, je ne sais pas, un pain sec depuis 3 jours à manger. Tu fais le tour de la maison à vue d'œil, tu vois qu'il n'y a rien à manger dans cette maison. L'enfant est en train de grelotter, il a tous les signes du kwashiorkor. On te dit que cet enfant a la fièvre, il va mourir. Oui, tu vas prier. Mais la première chose à faire, c'est demander qu'on achète à manger, de donner à manger à cet enfant-là. L'amener à l'hôpital, lui faire faire des perfusions, lui donner des choses, des remontants, des vitamines. La capacité de Dieu commence là où s'arrête celle de l'homme. La capacité de Dieu commence là où s'arrête celle de l'homme. Je vous ai toujours dit que ça veut dire non seulement que Dieu a la capacité d'aller au-delà de ce que les hommes peuvent faire, mais ça veut surtout dire que Dieu n'agit pas tant que ce que l'homme peut faire. La parole de Dieu ne dit pas la capacité de Dieu se poursuit, ne dit pas va au-delà de ce que de la capacité de l'homme. La parole de Dieu dit la capacité de Dieu commence, débute, vient là où s'arrête celle de l'homme. Il y a un poteau qui est là. Tes yeux et ton cerveau sont prévus par Dieu pour quand tu vois le poteau, tu le contournes. Tu marches et tu rentres dans le poteau en disant que si Dieu veut, il n'a qu'à te faire détourner du poteau. Tu vas te casser la tête. Et c'est là où Jésus dit à Satan, il est écrit, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Quand Dieu t'a donné une capacité naturelle de régler un problème que tu ne le règles pas, et que tu dis que tu attends Dieu, tu essaies de mettre Dieu à l'épreuve. C'est de la foutaise. Mais c'est ce que certains chrétiens font. Le chrétien ne doit pas être un crétin. Dieu a fondé le monde avec sa sagesse. Il a affermi par son intelligence et il a rempli par sa connaissance. Sagesse, intelligence, connaissance. La sagesse, c'est de connaître la vérité, de savoir ce qui est vrai. Dieu a fondé, la fondation de toute chose, c'est la vérité. La vérité, c'est de savoir que Dieu est Dieu. Les chrétiens sont généralement sages de ce point de vue. Mais l'intelligence, c'est la capacité à faire des liens logiques entre les choses, à faire des inductions et des déductions. C'est-à-dire, je dis, si telle chose est comme ça, cela doit vouloir dire que telle chose sera comme ça. Étant donné que telle chose est comme ça, on peut en déduire que telle chose était comme ça. Cette capacité d'utiliser son cerveau-là, beaucoup de chrétiens sont des crétins dedans. Or, ça, c'est l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est elle qui a fermé les choses. Et la connaissance, l'astrologie, comme ça, telle chose marche. Voilà telle loi de la nature, la loi de la physique, la loi de ci, l'alimentation. Qu'est-ce que la médecine dit, ainsi de suite. De savoir ce que le monde sait, ça te permet de remplir ce que tu as fondé par la sagesse, ce que tu as affirmé par l'intelligence. Les chrétiens sont ignorants en intelligence, sont ignorants en connaissance. Donc, ils ont un bon fondement, mais ils n'ont rien à jouir. Comme je dis, c'est comme si tu vois quelqu'un qui construit une maison, il y a une belle fondation, on dit fondation pour 10 étages. C'est bien beau, mais il n'a jamais fini un seul étage dans lequel il peut dormir. Un autre vient, il fait une mauvaise fondation. On sait que d'ici 2 ans, quand il va avoir les inondations, sa maison va s'enfoncer. Mais sa maison est belle, carrelée, des staffs, c'est beau, il habite dedans. Le monde est comme quelqu'un qui a construit une belle maison dans un marécage. Tout le monde sait que d'ici 5 ans, sa maison sera sous l'eau. Mais aujourd'hui, il est dans une belle maison. Le chrétien a une fondation, il a fait une fondation pour un immeuble de 10 étages. Mais il n'y a pas un seul endroit où il peut dormir à l'abri de la pluie. Il n'a même pas coulé la première dalle. La sagesse est là, le fondement est là. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de connaissance. Tu peux aller dormir sur un chantier qui n'a pas de toit? Donc, bien qu'il vaille mieux avoir une bonne fondation, à condition qu'on ait aussi l'intelligence et la connaissance, si c'est pour ne pas avoir d'intelligence de connaissance, la vie de celui qui a la sagesse est pire que la vie de celui qui a l'intelligence et la connaissance. Au moins pour le moment. Au ciel, on verra. C'est autre chose. Voilà pourquoi les chrétiens sont misérables sur la terre, disant au monde que le plan de Dieu, c'est qu'il s'ouvre sur la terre, on va voir au ciel. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est parce que les chrétiens, dans leur crétinisme, ont méprisé l'intelligence et la connaissance. Et qu'on ne fait rien pour la développer à l'église. On n'enseigne rien aux gens. On est ignorant de ce qui se passe dans le monde. On passe tout notre temps à critiquer le monde, à juger le monde. En oubliant que le monde a été créé par Dieu aussi. Quand vous allez évangéliser, n'allez pas comme des crétins.
N'allez pas donner l'impression d'être des idiots qui ne connaissent rien d'autre que Jésus vous aime, viens à Jésus, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas qu'est-ce que ça change dans la vie du gars, tu racontes des choses inutiles. La parole de Dieu nous dit que nous devons être le sel et la lumière du monde. Le sel donne de la saveur. Quand le sel rentre dans une sauce, quelle que soit la manière dont la sauce est préparée, elle est mauvaise n'importe comment, en gérant la quantité de sel, tu peux toujours finir par la rendre mangeable. Le sel donne de la saveur à ceux qui n'en ont pas. Et la lumière vient éclairer ce qui est sombre. S'il y a l'obscurité quelque part, il fait noir, pourquoi il fait noir? Vraiment, la SBE, allume ta torche. Dès que tu allumes ta torche, tu n'as pas besoin de discuter avec l'obscurité. L'obscurité disparaît à l'instant où tu allumes ta lumière. On peut pas dire, j'ai allumé ma lumière. Obscurité, va-t'en, va-t'en. C'est comme ça qu'on fait. L'obscurité est détruite instantanément. Quand vient la lumière? Les chrétiens parlent trop pour demander à l'obscurité de bouger. Ah, nous repoussons les limites du monde des ténèbres. Arrêtez de repousser les limites du monde des ténèbres. Éclairez les ténèbres. Mais dans les deux cas, le sel comme la lumière ne peuvent agir à distance. Le sel agit quand en rentrant dans la sauce. S'il y a une sauce, par exemple, de légumes avec de l'huile rouge, et que le sel se dit, bon, cette sauce-là, elle est trop grasse, elle est trop chargée, je veux bien la saler, mais je n'ai pas envie de rentrer dedans, elle ne peut pas jouer son rôle. C'est ce que les chrétiens font. On ne veut pas être dans le monde. Chrétien n'allait pas à la plage. Chrétien n'allait pas sur Facebook. Chrétien n'allait pas à la télé. Chrétien n'allait pas au restaurant. Chrétien ne sortez pas enfermé, vous, avec les oreilles attachées, la tête vilaine, les pieds crottés, pourris dans vos églises. N'allez pas dans le monde. C'est pas ça qu'on fait. C'est normal aussi qu'elle n'ait pas beaucoup de maris. Le taux de célibat est plus important dans l'église que dans le monde. Vrai ou faux? Pourquoi? Un, elles entretiennent la laideur. Elles vendent leurs bijoux. Elles s'attachent la tête avec des trucs mal famés, niais, vilains. Elles font tout pour ressembler à la pauvreté, sous prétexte que la pauvreté est une vertu. Et elles veulent qu'un homme choisisse ça. Elles sont souvent des paresseuses. Quand elles allument Radio Manhattan et qu'elles écoutent ça toute la journée, elles croient que l'enseignement de la parole de Dieu va venir travailler dans leur vie. Elles ne savent pas que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. La parole nous donne la sagesse, la parole nous donne la capacité, c'est la pluie, mais Dieu dit que ça vient bénir l'œuvre de nos mains. Mais elles ne sont pas dérangées de s'asseoir toute la journée d'écouter Radio Manhattan en pensant que parce qu'elles sont en train d'écouter la parole de Dieu, le miracle va se produire. Trois. Sous prétexte qu'elles aiment Dieu, elles méprisent leur mari. Lui, c'est un païen. Lui, c'est un diable. Elles prennent leur mari, qui doit être la source de bénédiction pour eux, comme le diable. Elles viennent à l'église, mon mari là, c'est un alcoolique. Hier, il a fait ci. Et elles viennent raconter ça à tout le monde à l'église. Alors que toutes les églises à Cotonou et dans le pays ont des haut-parleurs. Donc, tout le monde dans le quartier connaît le problème de leur mari avant même que lui ne se réveille. Comment ce mari-là peut vous donner sa vie à Jésus dans cette église-là? Et je me dis, voilà, c'est le gars qui m'a parlé, le voilà. Elles sont à l'église à 7h, elles vont dire, il y a programme. Elles sont à l'église à 11h, elles vont dire, je ne sais trop quoi. À 14h, fin du jeûne. À 15h, pour balayer. À 17h, pour le groupe de prière. À 19h, pour la chorale. À 20h, pour l'enseignement. Elles ne sont jamais à la maison pour s'occuper de leurs enfants et de leur mari. Et quand leur mari disait, dit non, je vais obéir à Dieu, tu ne peux pas m'empêcher d'obéir à Dieu, je préfère suivre Dieu que de t'obéir. Et le pasteur les encourage, oui, il ne faut pas qu'il te détourne des voies de Dieu, hein, c'est Satan qui l'utilise. Menteur ignorant va. Dieu dit aux femmes qu'elles ne peuvent gagner leur mari qu'en obéissant à la parole de Dieu. C'est par leur comportement qu'elles peuvent gagner leur mari. Une femme ne gagne pas son mari en parlant. Une femme gagne son mari par son comportement. Le Seigneur a dit que le oui de quelqu'un doit être toujours oui et le non doit être toujours non. Et que rien ne doit pousser un homme à ne pas honorer ses engagements. On a vu plein de cas avec, par exemple, Josué, qui avait signé des contrats, alors qu'il avait même été escroqué avec les Gabaonites, je crois. Il devait les détruire. Dieu dit de les détruire. Ils induisent Josué en erreur. Josué signe un pacte avec eux qui ne les détruira pas. Mais quand Josué s'en est rendu compte, on aurait pu dire, c'est Dieu qui a dit les détruire. L'ordre de Dieu vaut plus que la parole donnée. Dieu dit non. Si Dieu leur a dit que tu ne les détruiras pas, tu ne les détruis pas. Plus tard, sous David, des descendants de David et de Saül ont détruit la Gabaonite. Ils ont été pendus par David à cause de la parole donnée par Josué. Et je suis hors de Dieu. Mais ce Dieu qui est si rigoureux que ça sur sa parole, il dit, je suis fidèle. Mon oui est oui, mon non est non. Et c'est ça qui fait qu'on peut compter sur Dieu. Quand il arrive sur le cas des femmes, il dit ceci. Une femme ne s'appartient pas. Elle appartient à son père jusqu'à son mariage. Après, elle appartient à son mari. Cela veut dire que, Dieu dit, hein, si une femme, en l'absence de son père ou de son mari, selon le cas, prend un engagement, et que son père ou son mari la prennent et ne sont pas d'accord, elle est libre de cet engagement, comme si elle n'avait jamais parlé. Où est l'autorité que Dieu donne à un homme? Combien de femmes au Bénin ont la sagesse de savoir que même si elles ont promis d'aller prier, d'après la parole de Dieu, quand son mari dit non, elle est libre de sa promesse d'aller prier. Dieu ne dit pas à une femme d'aller prier et de venir l'adorer quand son mari n'est pas d'accord. C'est faux. Dieu dit que quand ton mari n'est pas d'accord, tu restes à la maison. Tu lui obéis. Parce que même la promesse que tu lui as faite de venir le prier, il t'en dégage si ton mari n'est pas d'accord. Elle dit, mais comment Dieu peut dire ça? Oui, mais c'est comme ça, il est. Il va jusqu'à dire que si Dieu dispose, Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de son ennemi. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut que tu ailles le prier et que tu es une chrétienne, quand ton mari dit non, tu dis d'abord, tu as la chance que je connais Jésus. Si ce n'est pas que je connaissais Jésus, toi-même tu me connais, je suis karatéka. Mais tu as la chance. Le Dieu que je connais est un Dieu d'ordre. Il dit que je dois te servir, que je dois t'obéir, que tu es le chef et que rien ne se négocie. Et que même pour le prier, quand tu n'es pas d'accord, je ne dois pas bouger. Ce n'est pas grave, je me déshabille, je n'y vais pas. Le premier mari va commencer à se dire, mais quel est ce Dieu qui rend ma femme docile comme ça? Ce Dieu-là est doué. Il faut que j'aille voir ça de près. Ensuite, tu rentres dans ta chambre. Et tu dis, Seigneur, tu as dit que si tu agrées mes voix, donc si tu es d'accord avec ce que je veux faire, tu vas disposer même le cœur de ton ennemi. À plus forte raison, mon mari n'est pas mon ennemi. Si c'est toi qui veux que j'aille te servir, mets-lui à cœur de me laisser te servir. Si c'est toi qui veux que j'aille te servir, fais que ce soit lui-même qui me prenne et qui a m'amené là-bas. Si il ne vient pas te dire qu'il est d'accord, donc c'est que Dieu ne voulait pas. C'est ça que ça veut dire la foi. La foi n'est pas de croire ce que tu veux, de ne pas croire ce que tu ne veux pas. Quand il dit non, c'est non. Tu peux prier dans ton cœur. Tu peux prier dans ta chambre. Tu pries pour lui. Seigneur, touche-le. Délivre-le. Tu prends autorité sur les esprits qui le manipulent, sur les principautés qui le manipulent, sur les démons qui le manipulent. Et tu demandes à Dieu de toucher son cœur, à Dieu de lui faire le remords, à Dieu de le toucher, de faire en sorte qu'il te laisse y aller. Mais surtout si tu as été docile et que le mail a été surpris, déjà faire confiance va le déranger. Soit le même jour, si un bureau vient, dit, bon, c'est pas grave, vas-y, mais ne reviens pas tard, hein. Je veux te voir à la maison avant 20h. Ou bien la prochaine fois que tu vas demander, il ne va pas dire non. Si tu continues, et chaque fois, dans ton comportement, il voit la vertu, tu n'insultes plus les gens. Il dit, ah, franchement, on a trop de problèmes. Non, mon cher, il ne faut pas dire qu'on a trop de problèmes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vois ce que... Et tu payes. C'est ma femme qui est sage comme ça. Un jour, il va aller te déposer. Il y a plein de cas comme ça. Il va faire comme si, bon, j'ai un rendez-vous à 21. Bon, comme il n'est pas encore 21, j'attends. Je vais m'asseoir d'abord le temps que le... Parce qu'il veut venir, lui aussi, il est venu écouter. Personne ne peut vivre avec quelqu'un. Voir une transformation positive en elle ou en lui et ne pas le suivre, ne serait-ce que par curiosité. Et si elle ne suit pas curiosité ou si elle ne suit pas curiosité, que c'est une église vivante, quand il met les pieds là-bas, il ne peut plus jamais sortir. Mais dans les églises, quand quelqu'un vient au Seigneur, il révolte tellement son conjoint par son intégrisme que le gars se dit, bédé, je ne vais jamais là-bas. Il veut plutôt tuer le pasteur qu'un jour de rentrer dans cette église. On garde les femmes déjà jusqu'à 23, jusqu'à minuit en disant que c'est veille de prière. Et parfois, veille de prière dans la maison du pasteur, c'est de minuit à 3h du matin, compris dans la maison du pasteur, c'est un célibataire. Et on veut que ces gens-là donnent leur vie à Jésus. Et c'est pour ça que les femmes chrétiennes sont célibataires. Parce qu'elles n'obéissent pas à Dieu. Elles se rebellent là où Dieu dit d'obéir. Elles sont querelleuses. Elles parlent des problèmes de leur mari. Là où elle ne devrait pas le faire. Nous devons apprendre aux chrétiens à obéir en toutes choses à la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous garantit dans la durée et de manière définitive la grâce de voir de plus en plus de gens venir au Seigneur. Pas parce qu'on les force, mais parce qu'on est un sel qui a salé leur vie ou parce qu'on est une lumière qui est venue éclairer leurs ténèbres. Quand vous allez voir quelqu'un, le tout n'est pas de dire « Oui, bon, viens à Jésus, oui, je viens à Jésus. » C'est pas ça. n'est pas la déclaration qui est la plus importante. Tôt ou tard, ils la feront. Ce n'est pas l'église des gens qui est le plus important. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de toute ma vie de changer d'église. Pourtant, combien de personnes n'ont pas laissé leur église? Je ne demanderai jamais à quelqu'un de sortir de son église. Parce que nulle part dans la Bible demande à quelqu'un de laisser son église. Dieu s'en fout de vos églises. Parce que pour demander à quelqu'un de changer d'église, il faudrait pouvoir lui dire qu'il y a une église mauvaise et une église parfaite. Il y a beaucoup d'églises mauvaises, mais il n'y a pas d'église parfaite. Chaque église a ses forces et ses faiblesses. Si vous prenez les catholiques, par exemple, les catholiques ont des forces par rapport à la parole de Dieu. Et ils ont des faiblesses par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous donner ces éléments parce qu'il faut que vous compreniez. Quand on évangélise les gens, ce n'est pas forcément pour dire quitte l'église catholique, viens chez les évangéliques, quitte les évangéliques, viens ici, quitte les... Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a pas de camp. Les camps sont différentes formes de désobéissance. Le Seigneur, dans sa parole, ne parle que de l'église universelle. Je ne sais pas si c'est dans Éphésiens 3 quelque part où Paul disait que nous ne devons pas juger les gens qui ne sont pas encore matures dans la foi. Mais nous devons leur annoncer la vérité avec amour, en priant pour qu'ils parviennent progressivement à une stature parfaite de Christ. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends un frère chrétien, qui pour différentes questions de dénomination, d'obédience, de doctrine, te semble ne pas obéir à Dieu, tu ne dois pas considérer que c'est un diable et le jeter. Ça ne veut pas dire que tu dois dire que tout ce qu'il fait est bon. Mais tu ne dois pas te concentrer sur ce qui est mauvais. Tu dois te concentrer sur ce qu'il fait de bien et lui dire en quelque sorte, ce que tu fais là est bien, mais en telle et telle chose, ce n'est pas la vérité. Voilà la vérité, viens à la vérité. Tu veux que je change d'église, je m'en fous, ton église va où tu veux. Mais viens à la vérité. Parce que la réalité, c'est que même les évangéliques, si on doit regarder, moi des fois, les gens me disent, tu veux que j'aille dans quelle église, je ne sais pas. Parce que comme tout le monde, les évangéliques ont leur force et leur faiblesse. Et le but de la foi, ce n'est pas que les gens aillent d'une dénomination à l'autre. C'est qu'ils obéissent parfaitement à la parole de Dieu. La vraie église, c'est celle qui obéit en tout point à la parole de Dieu. Et aucun homme n'étant parfait, notre défi quotidien est de comprendre de mieux en mieux la parole de Dieu et de nous aligner de plus en plus sur elle, d'où que nous venions. Quand Jésus, l'Esprit du Seigneur, parle aux sept églises, il ne leur dit pas, voilà, toi, tu es une église parfaite. Il dit à chacun ce qu'il a comme force et à chacun ce qu'il a comme faiblesse. Quand vous prenez par exemple les catholiques, je vous donne ces exemples pour que vous soyez cultivés. Vous ne pouvez pas non plus jouer les ayatollahs intégristes qui considèrent que tout ce qui n'est pas évangélique est mauvais. Non, je vous le dis, il y a des gens parmi les catholiques qui ont plus de foi que certains évangéliques. Et il y a beaucoup parmi les musulmans qui ont plus de foi en Dieu que les chrétiens. Quand vous prenez par exemple les catholiques, ils sont forts dans la discipline. Ils sont forts dans l'organisation. Ils sont forts dans la méthode. Ils sont forts dans la rigueur. Ils sont forts dans la discipline. Ils ont le sens de la crainte de Dieu, du sacré, même si elle est devenue folklorique. Ils ont aussi été, que le veuille ou non, ceux qui ont le plus évangélisé. Si la majorité du monde est catholique, c'est parce que l'Église catholique a évangélisé plus que tous, à travers les missionnaires. Ils ont plus que tous les autres les œuvres. Quand tu vas dans le plus petit village, il y a une église catholique, ils ont un dispensaire, ils ont des hôpitaux, ils ont des orphelinats, ils ont des écoles, et tout le monde va dans leurs écoles. Je veux voir combien d'écoles évangéliques il y a, je veux voir combien d'orphelinats évangéliques il y a, je veux voir combien de maternités évangéliques il y a. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Cela veut dire que quoi? Même si en certaines choses sur lesquelles je reviendrai, les catholiques ne sont pas encouragés, comme on dit, avoir dit qu'est-ce qu'on met en anonymo, il y a des choses que les évangéliques et les autres devraient imiter chez les catholiques. Chez les évangéliques, n'importe quel voyou trouve un hangar et devient pasteur. Il prend la Bible même à l'envers et commence à donner des cultes. Tu ne peux pas voir ça chez les catholiques. Mais c'est quoi la faiblesse des catholiques? C'est une religion qui a été fabriquée par un hybride, par un mariage inceste entre le paganisme, donc les païens romains, et l'Église. L'Église catholique est née de l'Empire romain qui était comme le Bénin, un pays très idolâtre. Et qui du jour au lendemain a décidé de se christianiser. Et qui au lieu de renoncer totalement au paganisme romain, a décidé de créer une nouvelle religion qu'ils ont appelée religion église catholique, je ne sais pas d'où vient ce mot-là,
romaine,
et qui n'a été qu'un mélange incestueux des pratiques chrétiennes et des pratiques païennes. La statue de Marie, là, si quelqu'un s'est fouillé sur Internet, allez chercher Isis, Semiramis. C'est une statue qui existe depuis Néron, la Babylone. C'est une idole. La reine Isis, il y a tellement de la Cybèle, la reine du ciel. Il y a tellement de déesses païennes qui sont représentées par cette même statue avec le bébé dans la main et la couronne sur la tête. Ce bébé-là, on parle de la reine mère. C'est un bébé qui incarnerait à la fois le roi et le bébé de la reine. L'histoire, je vous la passe. Une reine, je crois, l'épouse de Néron. Comme il y avait, ils ont créé Néron, un descendant de Noé, et a été le premier un peu à refabriquer l'idolâtrie après le déluge. Et il était un grand tyran. Il a créé beaucoup de la plupart des figures païennes qu'on connaît aujourd'hui. Et il était très tyran. Ils ont créé aussi les orgies, la prostitution spirituelle, religieuse, comme on en est le couvent là. On couche avec plusieurs personnes et consorts. À un moment, l'histoire ne se dit pas comment, il a été retrouvé mort, découpé en petits morceaux. Et avec son cœur qui n'a pas été touché. C'est depuis ce moment que les gens adorent le sacré cœur de Néron, qui comme par hasard est devenu après le sacré cœur de Jésus. Je n'ai rien vu dans la Bible où on parle de sacré cœur de quelqu'un. Le sacré cœur de Néron vient, quand on a fini de découper Néron, là il ne restait que son cœur. C'est là qu'ils ont commencé à adorer les cœurs, soit dit en passant. Donc, quand ce roi tyran a été découpé en morceaux, vous savez le problème de nous les catholiques là, c'est qu'on fait le malin alors qu'on est des ignorants. On ne sait même pas de ce qu'on défend. C'est comme les gens qui disent, oui, je défends la culture de mes aïeux. Ils ne connaissent rien la culture de ses aïeux, ils font le malin. Il faut arrêter de défendre ce qu'on ne connaît pas. Donc, quand ce roi-là a été tué, découpé en petits morceaux, et qu'il ne restait que son cœur, ses partisans étaient déçus, étaient désolés, se disaient, bon, voilà, le roi est mort. Mais, quelques temps après, comme c'était aussi une prostituée, sa femme, elle tombe enceinte, alors que le roi est déjà mort. Elle dit, mais comment la reine peut tomber enceinte alors que le roi est mort? Elle dit, non, vous savez ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle s'est prostituée simplement. Elle dit que la nuit passée, le roi qui est mort s'est incarné comme une lumière, donc comme un esprit, qui est venu la féconder. Et que c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Donc l'enfant qui va naître est à la fois une réincarnation de ce roi qui est mort et à la fois le prince. C'est-à-dire qu'elle est à la fois prince et roi. Elle devient donc à la fois la reine et la mère du roi. C'est de là que vient la mythologie de la reine mère, que les païens adoraient comme beaucoup d'autres peuples, comme Babylone avant. Quand les Romains sont devenus chrétiens, il y avait les temples pour adorer cette déesse-là. Les gars disent, mais c'est comme si aujourd'hui je dis au Bénin que tous les Bénois deviennent par décision de Yahweh chrétien. Les gens qui adorent Mami Wata disent, mais nous on fait quoi maintenant? Et t'inquiète pas, il y a une dame chez les chrétiens là, qui ressemble un peu à Mami Wata, c'est une reine. Elle s'appelle Marie. Désormais, on va appeler ça Marie Mami Wata. Dis bon, validé. Dans tous les temples d'adoration de Mami Wata, deviennent des cathédrales d'adoration de Marie Mamiwata. C'est à peu près ce qu'ils ont fait les Romains. Et c'est comme ça que la déesse, Isis et consort, a été confondue à Marie. Vous voyez, l'histoire de la déesse est proche de celle de Marie. On a transformé Isis et Marie, on a mis ensemble, on a commencé, tous ceux qui adoraient les statues d'Isis, on leur a dit, c'est pas compliqué, c'est la même chose avec Marie, commencez à adorer Marie. Même au début, l'église catholique allait voir dans Internet, il n'y avait pas la mariologie. La mariologie est arrivée plusieurs siècles après le début de l'Église catholique. Et entre eux, ils se sont bâtis longtemps d'abord, avant de finir par adopter ça, lors de leur vote qu'ils appellent des conciles. Ils se réunissent en réunion politique et selon la majorité, on prend une décision qu'on dit que c'est la vie de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire de la mariologie. Donc arrêtez de faire le malin quand vous ne connaissez pas ce sur quoi vous faites le malin. Donc l'un des grands problèmes de l'Église catholique, même les chapelets, regardez, il n'y a que les païens qui utilisent le chapelet. Il y a ça dans tous les couvents. Il y a ça chez les musulmans. Et Jésus, dans Matthieu 6, dit, juste avant de notre Père, ne vous imaginez pas qu'à force de répéter les mêmes vaines paroles comme les païens, vous serez exaucés. Tous les païens ont cette méthode de prière qui consiste à répéter les mêmes choses. Et comme ils finissent par se perdre dedans, ils avaient besoin de quelque chose pour égrener ce qu'ils répètent. C'est pour ça que le chapelet servait. Or, dans le notre Père, Jésus disait, avant de le donner, attention, ne vous imaginez pas, dans Matthieu 6, je crois, ne vous imaginez pas qu'à force de répéter les mêmes vaines paroles comme les païens, vous serez exaucés. Le chapelet vient du paganisme romain. C'est entré dans l'église catholique. Les bougies. Vous ne voyez pas dans le couvent là? Dans quel couvent on n'utilise pas bougie? Bougie bleue, bougie rouge, bougie vert. Vous avez vu où dans la Bible on a parlé de bougie? Ça vient du païen romain. Les temples de l'Église sont devenus les cathédrales. Vous allez voir, par exemple, chaque localité a un dieu protecteur. D'accord? Chaque famille a un esprit protecteur. C'est ça qui est devenu les saints patrons des villes. Saint Charbel de Si, Saint Si. Donc, ils ont pris les saints des païens qui gouvernaient les villes là, et ils ont transformé en saints patrons des villes, de l'Église. Donc, allez lire l'histoire de l'Église catholique. Allez sur Internet, mettez histoire de l'Église catholique et asseyez, vous lisez. Vous allez arrêter de faire un peu le malin. Donc, le problème de l'Église catholique, c'est que c'est une Église prostituée. Elle est née par un adultère entre une partie des chrétiens qui avaient peur de la répression, parce que les premiers siècles après la mort de Jésus, c'est les Romains qui ont tué le plus de chrétiens. C'est eux qui ont tué Paul, c'est eux qui ont tué Pierre, c'est eux qui ont tué Étienne. C'est les Romains, ils ont massacré les chrétiens. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à les détruire, qu'ils avançaient, il s'appelle Constantin, l'empereur romain, dit bon. C'est un peu comme maintenant, ils sont en train d'autoriser la prostitution, la drogue en Europe, parce qu'ils sont fatigués de lutter contre ça. Donc, comme ils ont vu que ça ne marche pas de lutter contre les chrétiens, c'est pas compliqué, on n'a qu'à les autoriser. Ils sont puissants, ils attirent du monde, ils font des miracles. Au lieu de les combattre, allions-nous à eux. Donc ils sont passés de la persécution des chrétiens qui les a tués à essayer de phagocyter les chrétiens en disant qu'on est avec eux, mais en créant quelque chose qui n'est rien d'eux. Et à ce moment, les vrais chrétiens ont été mis en minorité et étouffés pendant que cette machine... Écoutez, l'Empire romain, c'est même plus grand que l'Empire américain aujourd'hui. C'était un empire qui couvrait le monde entier. C'est le dernier grand empire après Babylone et consorts. Donc, il couvrait le monde entier. Si un empire qui couvre le monde entier fabrique une religion, c'est un missionnaire, c'est un militaire, c'est un marchand, toute la puissance de l'empire a dispersé rapidement dans le monde entier cette religion. Voilà comment l'Église catholique est devenue la religion officielle, connue comme étant chrétienne, quand elle avait étouffé les laissant chez les juifs là-bas, les vrais chrétiens. Et ça a marché pendant des années. Où les gens ont même fini par oublier ce qu'on appelle le vrai christianisme. Jusqu'à ce que Dieu merci, comme Dieu est redoutable en Léonie, il a choisi un moine catholique. Parce qu'on oublie que le protestantisme là vient du catholicisme. Un moine catholique qui s'appelle Luther. Il a fait tout ce qu'on dit de faire à l'Église catholique. Il a été moine. Il a râpé ses genoux sur le goudron fatigué en espérant avoir rémission de ses péchés. Et Dieu s'est révélé à lui pour dire, petit, arrête de me perdre du temps. J'ai vu ton cœur, tu m'aimes, mais ce n'est pas ces niaiseries-là. Donc Dieu lui a permis de tomber sur un vieil exemplaire de la Bible qu'on avait soigneusement caché dans les caves de son monastère, priant pour qu'aucun prêtre catholique ne le voie. Vous imaginez une église dont les prêtres ne voient pas la parole de Dieu. Ce n'est pas pourquoi ils ont peur de ça comme ça. Et Luther est tombé sur la parole de Dieu. Il a commencé à lire, il a compris. Et il dit, mais on faisait erreur. Donc lui, dans sa naïveté, comme à une certaine époque, il a commencé à faire des publications pour expliquer aux catholiques, « Youpi, j'ai compris, on se trompait. Voilà en fait ce que dit la Bible. » Il a commencé à publier des choses pour dire, « Voilà la vraie doctrine de la Bible. » Immédiatement, le pape l'appelle pour dire, « Petit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas vivre longtemps. » Là, tu es en train de protester contre la doctrine. On s'est réunis à beaucoup de cardinaux, on a mangé beaucoup, on a passé beaucoup d'argent avant de dire tout ce qu'on dit là. Tu ne peux pas sous prétexte que tu as vu la Bible venir casser tout. Et ils ont commencé à le persécuter. Ils lui ont demandé de renier ce qu'il a lu. Il dit jamais. On a voulu le tuer, il a fui. Il est parti se cacher dans un château chez un de ses amis, où le restant de ses vies s'est caché. Et il a traduit la Bible en allemand et dans plusieurs langues, écrivant des commentaires pour aider les gens à comprendre. Et depuis son château caché, il publiait des choses. Donc, il a fait redécouvrir au monde qu'il avait même oublié la vérité. Parce que les catholiques parlaient de la Bible, mais ne la montraient jamais. Ils ont tiré de la Bible quelques versions, dit tout propos prior de son contexte n'est que prétexte. Ils ont sélectionné ce qu'on appelle le missel. Là, regardez, quand tu vas à l'église catholique, si tu vas à l'église pendant 4 ans, tu connais tout ce qu'ils disent. Alors que la Bible est volumineuse, on ne peut pas finir. Ils ont sélectionné quelques textes. Et ils ont combiné ça, lettre A, lettre B, année A, année B, année C, année D. Ça, c'est ce qu'on veut que tu saches. Le reste, ça ne te concerne pas. Parce qu'avec ça, on peut te manipuler. Si tu lis tout, tu vas comprendre que ce n'est pas vrai. Et ils ont caché la Bible. Utiliser catéchisme catholique, missel catholique, on a endoctriné plein de gens qui se pensent intelligents alors qu'ils ne sont pas intelligents. Heureusement, des gens comme Luther et d'autres après lui, suscités par le Saint-Esprit, ont fait le travail de réveiller la foi, de propager. Et c'est pour ça que, pour les soutenir, Dieu a permis la création de l'imprimerie. Les gens oublient que l'imprimerie a été créée en Allemagne, pas à Gutenberg. Et le premier livre qui a été imprimé par l'imprimerie au monde, c'est la Bible. Dieu a donné à Gutenberg la révélation de l'imprimerie pour imprimer la Bible. Et donc, la vraie parole de Dieu a commencé à se diffuser. Et les gens commençaient à se rebeller. Une grosse partie de l'Église catholique s'est rebellée et a voulu soutenir la vision de Luther. Il y a donc une scission. Et c'est là où ils ont fait les guerres d'inquisition. ceux qui se rebellaient étaient parrainés par des gens comme la Grande-Bretagne, comme l'Espagne. Et il y a eu même des guerres, ce qu'on appelait les guerres d'inquisition. C'est-à-dire qu'il y a des guerres entre les catholiques et les anciens catholiques qui disaient maintenant la vérité, là on va revenir à la vérité. Il y a eu beaucoup de massacres. On a tué beaucoup de gens. Et après, il y a eu deux camps. L'Église catholique qui continuait son chemin. Et le protestantisme qui était né comme des gens qui protestaient contre le mensonge catholique. Mais n'empêche, vu l'histoire de l'Église catholique, elle est plus forte que les autres. C'était un empire. Elle a la rigueur d'un État. Elle a l'administration d'un État. Elle a les moyens d'un État. Elle a la discipline d'un État. Elle a des forces. Elle a les œuvres d'un État. Parce que pendant longtemps, elle était confondue à l'État. Par exemple, en France, pendant longtemps, les cardinaux, les Richelieu, étaient à la fois des gouvernants et des responsables religieux. Il faut comprendre ça avant de faire le malin en tant que catholique. Nous qui sommes des anciens catholiques là. Mais n'empêche, comme je l'ai dit, ils ont des choses qu'il faut imiter. Mais en s'assurant, pour ceux qui nous concernent, de revenir à la vérité. Quand vous prenez les protestants, là où les catholiques s'en foutent de la parole de Dieu, ne s'intéressent qu'à leur système politique qu'ils ont fabriqué à partir d'une partie de la parole de Dieu, les évangéliques ont pour mérite qu'ils disent l'évangile ou rien. Notre seule doctrine, c'est la parole de Dieu. Si quelque chose est écrit, c'est bon. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas bon. Là où les catholiques ont estimé que la Bible n'était qu'une matière première dont on pouvait faire ce qu'on veut, les évangéliques disent c'est la parole de Dieu. Elle dit qu'on ne la négocie pas, on n'ajoute pas un mot, on n'en dit pas un mot. La doctrine des évangéliques, c'est de n'appliquer que l'évangile. Et c'est ça leur principale force. Parce que c'est la base de la fidélité à Dieu. Mais le problème des évangéliques, c'est qu'ils disent ça, mais ils ne font pas ça. Les évangéliques ont de plus que les catholiques, au moins de confesser que la parole a de l'autorité. Au moins de croire que la parole a de l'autorité. La Bible dit qu'il y a des miracles, les catholiques disent que les miracles c'est pour le passé. Bon, c'est maintenant qu'à force de les chauffer, il y a un renouveau charismatique, vous écarquez les vieux. Ça ne date pas de longtemps que l'Église catholique croit en miracle. Quand quelqu'un dit qu'il y a un miracle, on écrit au pape, soit celui qui a démissionné, soit celui qui est mort, soit celui qui est à venir, on lui demande d'authentifier que le miracle s'est vraiment produit. Quand quelqu'un dit qu'il a entendu Dieu, on demande au Vatican si la personne a vraiment entendu Dieu ou bien. Alors que la Bible dit que Dieu parle aux gens tous les jours. Vous savez pas? Ou bien? Quand Marie pleure, on demande au pape si Marie a vraiment pleuré au Bénin. Ou bien, c'est moi qui mens. Ah. Les catholiques oublient tout ce que Dieu dit et considèrent normal ce qu'ils veulent. Et dans ce jeu-là, ils ont été trop loin. Mais les évangéliques, tout en disant c'est la parole de Dieu qui est non négociable, ce qui est vrai et c'est leur principale force, tout en croyant au Saint-Esprit. Aujourd'hui, les catholiques, bon, sont en train de revenir timidement au Saint-Esprit à cause du nouveau charismatique, mais pendant longtemps, ils n'ont pas cru au Saint-Esprit. Les catholiques, à la base, ne croient pas parler en langue. Toute chose, c'est-à-dire tout ce qui fonde le pouvoir du chrétien, les catholiques n'y croyaient pas. Hélas, les évangéliques eux-mêmes, les premiers, les luthères, qu'on sait, étaient très authentiques, mais comme tout courant, avec le temps, ils ont été dilués. Cela veut dire que les évangéliques et les protestants en général ont, mieux que les catholiques, ce courage de la vérité, cette foi dans la vérité, mais ce n'est pas vrai qu'ils y obéissent tant que ça. Et c'est ça leur faiblesse. Si tu veux le désordre, si tu veux l'escroquerie, si tu veux le banditisme, si tu veux toutes ces mauvaises choses-là dans l'église, va à l'église évangélique, tu vas la voir. Et c'est ça qui est dommage. On va lire le message de Jésus à cette église rapidement. Qui a trouvé ça?
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais ce que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Ouais, là, c'est une première église. Jésus lui dit ses qualités et lui dit attention. On continue. Deuxième église. Ça, c'était l'église d'Éphèse.
Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres. des Nicolaites, œuvre que j'aurai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort
l'église de Smyrne.
Et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques heures de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aigle à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Satan.
Il y a des églises qui parlent, hein.
Tu retiens mon nom et tu n'as pas
renié écoutez bien ça, il faut bien relire. Après, vous allez lire ça à la maison, vous allez essayer de lire, vous allez voir à quel type d'église chaque ressemble. Vous allez retrouver toutes les églises. Hein. Écoutez bien, là il parle à une église. Écoutez.
Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aigle à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
Non, il y a des églises qui sont le trône de Satan. On continue.
Tu retiens mon nom.
Tu retiens mon nom, donc tu as le nom d'église.
Et tu n'as pas renié ma foi.
Et tu n'as pas renié que tu crois en Jésus. Continue.
Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure.
Là où mes témoins fidèles ont été mis à mort par vous. Là où Satan a sa demeure chez vous. On continue.
Mais j'ai quelque chose comme toi.
Hein?
C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité.
En leur disant qu'il y a des petits péchés, des péchés véniels, des péchés mignons, des demi-péchés et que certaines choses peuvent être confessées simplement pour disparaître, qu'en payant un peu d'argent au prêtre, on est pardonné. On continue.
De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaites.
La doctrine des Nicolaites, c'est celle qui dit que, bon, comme Dieu nous a déjà tout pardonné, tout est grâce, il n'y a plus de péché, on peut se prostituer, on peut mentir. Oui, c'est ça la doctrine des Nicolaites. Donc, il n'y a pas de vrai péché. En se confessant, tout est effacé. On continue.
Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Mais regardez, il ne dit pas « je te détruis ». Il dit « réponds-toi donc à toutes les églises ». Quand il leur cite leur faiblesse, il dit « Répands-toi ». On s'en arrête là. Vous allez lire, après on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez lire, prenez le temps de méditer Apocalypse 2. Toutes les formes d'église, protestantes, évangéliques, évangéliques qui obéissent, évangéliques qui n'obéissent pas, catholiques, là c'est l'église catholique un peu, tout y est décrit. Vous allez voir, si vous connaissez bien chaque type d'église avec leurs caractéristiques, vous allez voir que c'est ce type d'église. C'était des églises qui existaient à Éphèse et consorts, mais c'est des types d'églises qui correspondent aux différents types d'églises qu'on a aujourd'hui. Mais le bon côté des choses, car aucun Dieu n'a dit, bon, toi, c'est fini, je t'envoie directement en enfer. Il dit, si tu te répands, à ceux qui étaient déjà fidèles, il dit, si tu demeures fidèle, je te donnerai la couronne de vie. Notre défi en tant qu'évangéliste, ce n'est pas de faire pire que Jésus en disant aux gens, toi, tu es catholique, va en enfer, toi, tu es ici, va en enfer. C'est te dire, tu n'as pas renié le nom de Jésus. On a beau dire tout ce qu'on veut là, tout ce monde a dit qu'il est chrétien. Jésus dit là, tu n'as pas renié ta foi en mon nom. Tout ce monde a dit qu'ils sont chrétiens. Hélas, le trône de Satan est chez toi. Hein? Il n'a pas dit que Satan te fatigue, hein? Il n'a pas dit que Satan t'utilise. Hein? Il dit que le trône. C'est Jésus qui parle, hein? J'espère que vous comprenez le français. Le trône de Satan est chez toi. Conclusion, les doctrines comme celle de Bala, comme celle des Nicolaites, où rien n'est plus grave, il n'y a pas de sanctification, on fait comme on veut, tu es dans tout ça. Mais dans sa miséricorde, il dit, répands-toi. Ce que nous devons prêcher aux gens pour leur salut, c'est la repentance. Ce n'est pas d'aller les juger, leur dire, tu vas en enfer, tu es perdu. C'est leur dire, tu as l'occasion. Puisque tu n'as pas reni le nom de Jésus. Puisque après tout, tu es un chrétien. Donc tu crois en Jésus. Tout le reste, ça ne peut être qu'une erreur. Revenons à la parole. Si tu dis que tu es chrétien, c'est que nous croyons à la Bible. Si tu ne crois pas à la Bible, là, ce n'est pas la peine, il faut qu'on ne continue pas. Mais si tu crois à la Bible, prenons la Bible. Si tu crois que ma Bible est différente, parce qu'ils vont vous dire que la Bible des protestants est différente, il faut leur dire que c'est faux. La Bible des protestants contient tout ce qu'il y a dans la Bible catholique. Mais chez eux, ils ont ajouté des livres qu'ils pensaient d'inspiration divine, alors que tous les autres chrétiens expliquent que cela ne vient pas de Dieu. Mais soit, toute la Bible des protestants est dans la Bible Tobin. Donc, il n'y a rien dans la Bible d'un protestant qui n'est pas dans la Bible d'un catholique. Il y a des choses chez les catholiques qui ne sont pas chez les protestants, mais il n'y a rien dans la Bible des protestants qui n'est pas chez la Bible dans la Bible des catholiques. Donc, quand vous avez affaire à un catholique, demandez de vous donner sa Bible à lui, s'il veut. Vous allez trouver dans tout ce qu'il y a dans la Bible protestante, dans le même livre. Et sinon, ils vont dire, non, peut-être que c'est dans ta Bible. Prenez leur Bible à eux. Moi, j'ai tout, hein. J'ai le Coran, j'ai la Bible, j'ai tout. Quand chacun vient, je parle de pour lui avec lui. Et lisez-lui dans sa propre Bible. La vérité. Ça ne sert à rien de dire qu'on croit un livre. Je crois à la Sainte Bible. Tu crois en ça et tu fais le contraire de ce que ça dit. Il faut savoir ce que tu veux. Bref, l'évangélisation, ne vous concentrez pas sur les divergences. Ça, je suis en train juste d'édifier votre culture générale. Pour évangéliser les gens, ne vous focalisez pas sur les différences. Je vous les donne pour vous aider à la culture générale. Mais en mathématiques, il y a ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun. Pour évangéliser des gens qui sont déjà chrétiens, concentrez-vous sur le plus petit dénominateur commun. Ils croient en Dieu unique, ils croient en Jésus. Et je suppose qu'ils sont de bonne foi. Et que ce n'est pas erreur que ceux qui font comme erreur, ils font ça comme erreur. Allons ensemble dans notre livre commun et voyons qu'est-ce que Dieu a dit. Ça doit être ça votre démarche. Une démarche d'amener un frère qui est chrétien, mais qui est en train de se perdre, à voir la vérité et à mieux obéir à son Dieu. Il ne s'agit pas de renier son Dieu. On ne demande pas à un catholique de renier Jésus. Dans le fond, en réalité, ce qu'on fait avec les catholiques, on devrait le faire à beaucoup d'évangéliques. C'est pour ça que je dis, moi, je crois qu'on devrait évangéliser beaucoup de gens dans les églises évangéliques aujourd'hui. Parce que l'évangélisation, c'est d'enseigner aux gens la totalité, eux, le maximum de la parole de Dieu. Que les gens comprennent ce que Dieu a dit afin d'y obéir. Et ce n'est pas vrai que les évangéliques comprennent tant que ça la Bible. Ils professent plus que les autres leur foi en la Bible. Mais ce n'est pas vrai qu'ils la connaissent mieux que les autres pour la plupart. Bon, ils la connaissent un peu mieux que les autres, mais ne lui obéissent pas totalement. Donc, le défi de mieux obéir à la Bible, hein, il est dans toutes les dénominations chrétiennes. Et il ne faut pas donner l'impression aux catholiques qu'ils sont une race à part. Ils sont coupables de certaines transgressions, comme les protestants et comme les évangéliques sont coupables de d'autres transgressions. Nous devons donc avoir de l'humilité en leur tendant la main. Quand tu dis à quelqu'un ce que tu fais est bien, mais tu peux faire mieux, regarde. Il est plus motivé quand tu lui dis qu'il lui ne répond à rien et qu'il doit tout révolutionner. Regardez la conférence avec Kérékou. Même il a dit, hein, il dit, on ne nous a pas dit de partir. On nous avait dit de venir, on va arranger les choses. C'est pour ça que nous avons organisé la conférence nationale. Peut-être que certains d'entre vous sont trop jeunes pour savoir, mais à la conférence nationale, les dessous, les dossiers qu'on sort, ils ont mené Kérékou par le bout du nez jusqu'à la fin. À chaque étape, ils s'attendaient à des petites réformes. Ils ont fini par lui accoucher à chaque pas qu'il a fait. Il a fini par faire tellement de pas qu'il était arrivé à devoir quitter purement simplement le pouvoir. Mais il dit, ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Tout en reconnaissant que là où on l'a amené, mais il ne peut plus faire marche arrière. Donc, si vous dites à quelqu'un, viens, on va faire une révolution totale, il va vous dire, non, démerde. Mais tu as raison. Mais ton bouton là est mal mis. Change de bouton. Je le change. Ta poche là, si tu enfonçais ça, tu lui fais ajuster des petits détails, comme si c'était des petits détails. Mais à un certain moment, il se rend compte qu'à force d'ajuster ces petits détails là, il a tout changé. Non. Le pas de dire que finalement, il s'est réhabillé, n'est plus loin, n'a qu'à se réhabiller carrément, parce que là, maintenant, il faut mettre un costume dessus pour que ce soit beau. C'est ça, l'évangélisation. Ce n'est pas fait contre les gens, mais c'est fait pour les gens. Parce que l'homme est naturellement orgueilleux. Aucun homme ne veut reconnaître qu'il a tort. C'est pour ça que Descartes, en philosophie, dira « Je pense, donc je suis ». L'homme croit que ce qu'il pense fait ce qu'il est. Et en conséquence, quand tu lui demandes de remettre en cause, vous savez, Les hommes ont du mal à changer parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont fait ce qu'ils pensent fait ce qu'ils sont. Quand vous leur demandez de changer leur pensée, ils voient que vous les remettez en cause eux-mêmes. Quand tu arrives à dissocier pour quelqu'un ce qu'il pense de ce qu'il est, il accepte plus facilement de changer ce qu'il pense. Dans l'évangélisation, n'attaquez pas qui les gens sont. Ah, tu veux que je change d'église? Va toujours dans ton église comme tu veux. Dieu est partout. Même si tu ne vas pas à l'église, tu es dans ta maison, Dieu est là. Si c'est à la mosquée, ça te plaît d'aller prier, va prier à la mosquée. Dieu est partout. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que si nous reconnaissons que ça, c'est la parole de Dieu, je veux que toi et moi, nous obéissons à la parole de Dieu. Si tu vois dedans quelque chose que Dieu dit que je ne fais pas, je veux le faire, quel que soit le nom qu'on donne à mon église. Et si toi, tu vois dedans quelque chose que Dieu a dit qu'on doit faire, que tu ne fais pas, je veux que tu le fasses, quel que soit le nom que tu donnes à ton église. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas d'église au ciel. Jésus n'a pas d'église. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller chercher des gens pour l'église évangélique. Et ce n'est pas l'église qui fonde des choses. Moi, dans ma vie avec Dieu, pendant 2 ou 3 ans, je n'ai été dans aucune église. Quand je voyageais, des fois, j'allais chez Carambéry, en Côte d'Ivoire, chez Sanogo. Mais j'écoutais beaucoup la parole de Dieu. Ce qui fait grandir les gens dans la foi, ce n'est pas leur église. C'est la parole de Dieu. Si tu vas à l'église catholique et qu'on enseigne la parole de Dieu en fidélité à la parole de Dieu, reconnais que ça, c'est la parole de Dieu. Si tu vois un musulman qui est d'accord avec quelque chose qui est dans la parole de Dieu, sur ça, vous êtes d'accord, c'est ce qui compte. Il faut d'abord repérer ce sur quoi on est d'accord pour avoir des choses qui se mettent d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. C'est pour ça que je vous donne de la matière pour des cas où vous devrez vous expliquer. Mais le but d'une évangélisation, par exemple, d'un catholique, n'est pas d'aller attaquer immédiatement des choses comme la mariologie, comme les chapelets. Oubliez tout ça d'abord. Quand le principe que c'est la parole de Dieu qui a de l'autorité est établi, si les gens marchent demain avec Dieu, eux-mêmes, ils vont se réveiller un matin. Le Saint-Esprit même va leur dire, ça ne marche pas. Donc, il ne s'agit pas de dire aux gens que tout ce qu'ils ont, vie, détruit tout dans ta chambre. Non. Si c'est que tu aimes une belle photo, tu crois que ça, c'est une belle photo de Jésus, ça ne te dérange pas. Si c'est décoratif, c'est ton problème. Mais si tu crois que c'est dans ce cadre-là que mon Jésus est, et que c'est ce cadre-là un pouvoir parce que Dieu est dedans, là, tu fais de l'idolâtrie. Tu attribues le pouvoir et les valeurs de Dieu à un objet fait de main d'homme. Parfait. Matthieu 6, à partir du verset 7. Ils ont demandé à Jésus, mais enseigne-moi à prier. Et c'est pour leur enseigner à prier que Jésus voulait donner le Notre Père. Et il a fait une introduction au Notre Père, qui est celle-là. Ça ne les empêche pas de prendre leur chapelet pour réciter le Notre Père. C'est-à-dire pour faire exactement le contraire de ce que Jésus a dit avant de donner le Notre Père. C'est comme si Jésus savait que quand il va leur donner cette affaire-là maintenant, ils vont réciter ça tout le temps. Donc il a pris la peine de dire de ne pas réciter avant de leur donner. Mais ça ne les empêche pas de réciter. C'est normal, ils ne voient pas la Bible, ils voient le missel. Ce n'est pas écrit dans le missel ça là. Ils ont oublié ça de mettre ça dans le missel. Donc, nous devons avec amour, mais dans la fermeté de la vérité, amener les frères qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à savoir qu'il ne s'agit pas de les juger. Mais que s'ils ne sont pas bénis, c'est simplement parce qu'ils ne respectent pas les modes opératoires de Dieu. Moi je dis souvent aux gens, mais écoutez, même ton propre argent, les catholiques, comme beaucoup de païens, décident de la manière dont ils veulent servir Dieu. La manière dont ils veulent parler à Dieu. La manière dont ils veulent adorer à Dieu. Et c'est Satan qui a créé ça. L'homme qui, après avoir été chassé du jardin d'Éden, veut essayer de reconquérir le ciel. C'est ça qui a fait la tour de Babel. Des hommes qui se disent, nous on va reconquérir le ciel en partant du sol. Dieu dit, ça ne marche pas. C'est Dieu qui vient aux hommes en tendant des ponts. Et Jésus est ce pont. C'est Dieu qui fixe les règles. L'une des plus grosses bêtises que nos frères catholiques disent, c'est Dieu est en chacun de nous, chacun sait Dieu comme il veut, chacun est libre de dire, il ne faut pas juger l'autre. Dieu n'a pas dit qu'il faut laisser les autres faire les bêtises. Il dit, si ton frère pêche, va le voir, dis-lui qu'il pêche, tu vas le sauver. Il y a une différence entre amener les gens à la vérité et juger les gens. Dieu dit que quand ton frère est dans l'erreur, et tu sais que l'erreur là va le perdre, c'est un acte d'amour que Dieu lui dit, tu es dans l'erreur. Ça, ce n'est pas le jugement. Le jugement, c'est quand tu dis que quelqu'un est mauvais, donc Dieu doit le punir ou Dieu doit l'envoyer en enfer. Quelqu'un est bon, lui va aller au ciel. Dieu dit que le jugement n'appartient pas aux hommes. Dieu seul juge. Mais l'homme, en partant de la vérité, en partant de la parole de Dieu, a le droit et le devoir d'attirer l'attention de son frère qu'il croit dans l'erreur sur la vérité. Quitte à ce que regardant ensemble la vérité, l'autre lui dise, oui c'est vrai, mais attention, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit si. J'ai telle chose. La parole dit aussi ça. Mais on doit pouvoir s'entendre techniquement sur la vérité. Donc, nous devons devons évangéliser avec l'amour. Le but n'est pas d'aller dire aux gens, vous êtes perdus, vous êtes mauvais, nous, j'ai la vérité, je vais te la dire. Vous voulez être béni, mais vous n'avez pas été béni. Vous priez en vain. Vous allez aux messes à 7h, à 8h, à 9h. Vous avez même été tellement fatigué de vos messes ennuyeuses que vous avez créé des messes express. 50 minutes, la messe est terminée. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais vous avez tout inventé, rien ne marche. Le miracle est rare chez vous, tellement que vous pensez que Dieu a fini de faire des miracles. Si tu vas chez les féticheurs, il n'y a que les catholiques. Alors, c'est les seuls qui vont dans une église où ils ne trouvent pas la puissance. C'est eux qui sont dans les groupes ésotériques. Dans tout ce qu'il y a de satanique, tu verras les catholiques. C'est les seuls chrétiens qui vont à l'église et qui, comme, sont obligés de laisser l'église pour la nuit, aller voir le diable carrément. Alors, qui était chez le diable, autant aller le voir la nuit. Pourquoi? Ce n'est pas que les catholiques en eux-mêmes sont mauvais. Mais les catholiques, pour la plupart, sont ignorants. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur église. On les a endoctrinés. Et quand tu rentres à l'église catholique, on te dit qu'il ne faut même pas réfléchir. Il y a plein d'intellectuels catholiques qui ne savent même pas réfléchir. Ils n'ont jamais lu une page dans la Bible. Ils disent qu'ils sont des intellectuels. Conséquence, ils ne voient pas les fruits de la Bible. Ils ne sont pas dans l'alliance de la Bible. Il faut les inviter à revenir à la Bible et à expérimenter le pouvoir de la Bible. Il faut les inviter à voir où ils obéissent à Dieu, continuer, où ils sont en désaccord pour se repentir. Non pas dans le but et le plaisir de dire qu'ils ont tort et qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir tort, mais dans le but de leur dire, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu ne veux pas être obligé d'être chrétien, mais la nuit d'aller voir des charlatans, des féticheurs, si tu veux que là où tu es au moins, tu envoies les fruits, va toujours dans ton église si tu veux, mais essaie d'obéir aux lois du Dieu que tu sers. Par rapport à quel problème tu as? Ah, j'ai un problème de mari. Viens, allons dans notre Bible, regardons qu'est-ce que notre Dieu comme l'a dit sur les maris. Et nous verrons si tu obéis à tout ce qu'il dit. Et il ne t'a pas donné un mari. Là, on va lui poser la question pour dire, cette sœur-là, pourquoi tu ne lui as pas encore donné un mari depuis? Mais il y a de fortes choses que quand nous allons commencer à parcourir la Bible sur la question des maris, on n'aura même pas fini que toi, mais tu vas savoir pourquoi tu n'as pas de mari. Auquel cas, tu n'auras qu'à te repentir. C'est-à-dire, le repentir, ce n'est pas acte de contrition. Mon Dieu, j'ai péché, pardon. Ça, là, c'est bavardage. Ça, c'est pas repentir. Réciter, même l'acte, même la repentance, ils en ont fait des récitations. Un récitage de contrition 3 fois, 10 fois, 15 fois, et c'est là où on dort bien dans le péché. Comment un récitage de contrition? On n'a qu'à dormir dans le péché. Il n'y a pas à faire d'acte de contrition. Le sens du mot repentance, c'est d'arrêter de faire ce qui est mauvais pour commencer à faire ce qui est bon. C'est de changer de chemin. C'est de se rendre compte que ce qu'on fait ne donne pas de bons résultats et de prendre un autre chemin pour avoir de bons résultats. Donc, il faut inviter. Même au niveau de l'église évangélique. Moi, quand je vais dans l'église évangélique, je leur dis la vérité autant que je le dis à d'autres frères. Quand tu vois n'importe quel chrétien, tu dois pouvoir lui dire, nous sommes des frères chrétiens, en ça, ça et ça là, on est en désaccord. Allons à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Par exemple, les églises catholiques comme évangéliques ont pendant longtemps prêché la pauvreté. Quel mal je n'ai pas eu, heureusement le Saint-Esprit était avec moi, pour leur démontrer que la pauvreté est satanique. Mais au début, même les évangéliques m'en voulaient. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit a travaillé, beaucoup ont commencé à comprendre. Mais on a fait dans toutes les églises pendant longtemps que heureux les pauvres. Donc, il ne faut pas que ce soit une guerre de religion et de dénomination. C'est un combat pour édifier les gens, pour rapprocher les gens de la vérité. Le jugement de Dieu, moi, Dieu m'a dit, je ne sais pas, il y a peut-être un an à peu près, ou je ne sais pas combien de mois, il me disait, mais je ne condamne pas, je juge. Et je n'ai pas compris. C'est comme je vous disais d'entrée de jeu, pour nous les hommes, quand on juge, c'est toujours pour condamner. C'est pour dire, toi tu es bon, toi tu es mauvais. Dieu dit rarement, toi tu es bon, toi tu es mauvais. Il y a des fois, il va prendre par exemple le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont dans une obéissance relative, il va les lever pour aller détruire des gens qui sont pires qu'eux. Mais le lendemain, il va prendre encore les mêmes Babyloniens pour déporter les Israéliens. Donc Dieu n'a pas de camp. Dieu ne juge pas en termes de toi tu es toujours bon, toi tu es toujours mauvais. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Dieu va dire par rapport à telle parole, par rapport à telle loi, toi tu es en écart, reviens. Si tu reviens, Dieu te juge, le jugement de Dieu, c'est la révélation de ta conformité ou non avec la vérité. C'est un peu ce que dans le monde on appelle un audit. Le jugement de Dieu, c'est comme l'audit de Dieu. Tu es en erreur, reviens à la vérité. Ah, ça, tu es fidèle, je suis fier de toi. En fait, Apocalypse 2, c'est du jugement de Dieu. J'aime ton zèle, j'aime ta foi, j'aime tes tribulations, j'aime si, mais... Là, répands-toi. Toi, j'aime si, j'aime ça, j'aime si, mais là, répands-toi. C'est ça que Dieu veut que nous fassions. Quand nous évangélisons les gens, nous devons pouvoir, tu peux même voir un musulman. Il y a beaucoup de musulmans qui ont plus de foi que des chrétiens. Ils ont plus de discipline que les chrétiens. Il fait ses saintes prières quotidiennes. Il n'ouvre pas sa boutique sans la confier à Dieu. Il ne la ferme pas sans la confier à Dieu. Si tu l'invites à travailler dans un hôtel où il y a des prostituées qui passent, il te dit que lui ne peut pas travailler dedans. Combien de chrétiens atteignent au niveau de sanctification là? Quand tu vois un musulman, il faut lui dire, mon frère, il y a des choses, tu es plus fort que moi. Hein. Mon Dieu dit tel. Là, tu n'obéis plus que nous. Il voit que tu n'es pas un faux, que tu es objectif, que tu dis la vérité. Et ça prédispose son cœur à écouter les autres vérités que tu diras. Si tu veux que quelqu'un écoute les vérités que tu dis, il faut d'abord commencer à lui dire la vérité qui le réconforte, avant de lui dire la vérité qui le déstabilise. Il faut d'abord dire aux gens la vérité qui les réconforte, avant de leur dire la vérité qui les déstabilise. Or, les chrétiens évangéliques ne font pas du jugement, ils font de la condamnation des païens. Est-ce que Jésus est venu pour les gens qui sont sauvés ou pour les gens qui sont perdus? Si tu ne peux pas aller parler à des catholiques, comment tu veux gagner les catholiques? Si tu ne peux pas aller parler à des célestes, comment tu veux gagner les célestes? Quand vous prenez par exemple les célestes, leur principal défaut, c'est comme l'église catholique. Le céleste là, c'est un mélange de christianisme et du païen béninois. Comme l'église catholique est un mélange de christianisme et de païen romain. Toute l'idolâtrie béninoise là est dans l'église christiane et céleste. Kondokpo, Kudio, toutes les bêtises de notre idolâtrie là sont dans l'église chrétienne céleste. Mais quand il s'agit de louer Dieu, personne n'a leur onction. Oh, Dieu siège dans la louange de son peuple. Cela veut dire qu'il va y avoir quand même certaines choses qui vont se passer à l'église céleste qu'une église évangélique classique ne verra jamais. Parce qu'eux, ils ont une foi, un cœur pour la louange que les autres n'ont pas. Si Jésus doit parler, il va dire, mes gars, merci, vous me louez, j'aime ça. Quand vous me louez, je suis content. Mais attention, ça là, ça vient de Satan. Mets-moi ça dehors. Il ne dira pas, vous êtes des diables. Il ne dira, je vous aime bien. Quand vous me louez, je suis très content. Et c'est vous qui fournissez d'ailleurs des gens pour me louer à toutes les églises. C'est bon, je suis fier de vous. Mais ça là, c'est satanique. Cet usage de sel là, c'est satanique. Cette eau là, ça vient de Satan. Cette affaire d'ailleurs se laver avec la femme des gens dans des trucs pour dire que vous tuez la mort là, c'est moi qui ai vaincu la mort. Mettez-moi ça à la poubelle. Utiliser le coco, utiliser le sucre, utiliser le miel, demander aux femmes de le mettre dans leur vagin qu'on sort pour avoir leur mari. Ça, c'est satanique. Mettez-moi ça de côté. C'est ce qu'il dirait. Et le chrétien dit la vérité. Les évangéliques sont des peureux. Ils font le malin entre eux. Quand ils arrivent là où il faut parler, ils ne savent plus parler. La vérité a franchi. Le 1er mai dernier, on m'a invité, il y avait plus de presque 200 secrétaires réunis. Et je l'ai choisi, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent comme thème. Ils ont commis leur dit comme je veux. J'ai dit parfait. Et je suis parti leur enseigner sur le développement personnel. Ils aiment bien ça. Et je leur ai démontré que les femmes n'ont pas à travailler. Pas comme des secrétaires. Qu'elles ne vont jamais être heureuses. Elles ne peuvent pas tirer entre leur patron et leur mari. Elles ne peuvent pas servir de maître. Je leur ai dit que je n'ai jamais vu un président dont la femme travaille. Je n'ai jamais vu un milliardaire dont la femme travaille et je n'ai jamais vu un paysan dans aucun village en Afrique laisser sa femme aller travailler dans le champ de quelqu'un. Que quand j'appelle Jean-Baptiste dans mon bureau, quand j'appelle Roméo, je peux parler avec eux 2 heures de temps. Sans que personne ne demande ce qui se passe. Si c'était ma secrétaire, je peux rester avec elle 2 heures de temps. Si je dis, comme ça nous est arrivé encore cette semaine, Jean-Baptiste, Roméo, Martin, venez, on passe la nuit dans mon bureau, pendant 2 heures de temps, on prie. Je peux dire ça à la femme de quelqu'un? Pourquoi je dois recruter quelqu'un que je ne peux pas utiliser, avec qui je ne peux pas être libre? Pourquoi cette femme qui a été fabriquée comme une aide pour son mari ne peut pas aider son mari? Lisez Proverbe 31, le plan de Dieu pour la femme n'est pas d'être salariée. C'est une femme entreprenante, libre, servant son mari, servant ses propres affaires, donc sa famille. Ce n'est pas de courir comme le mari pour venir aussi fatigué que le mari. Ce n'est pas de courir pour payer la moitié des factures. Évidemment, quand les femmes n'ont pas la chance d'avoir un bon mari, ou quand ne connaissant pas Dieu, n'ont pas laissé Dieu choisir leur mari, elles ont parfois des maris qui ne comprennent rien. Et il faut beaucoup de courage et de foi pour venir à la vérité. Mais je leur ai démontré par A plus B que leur vie ne peut qu'être malheureuse comme secrétaire. Et les organisateurs me regardaient, se disant, mais qu'est-ce qu'il dit là? À la fin, la plupart d'entre elles pleuraient. Et elles m'ont demandé, et le pire c'est que vous avez raison. Le pire c'est ce que nous vivons. Maintenant on fait comment? Jean-Baptiste était là. Je dis, donnez-vous 5 ans pour organiser votre démission plus tard. Ne démissionnez pas demain matin. Organisez-vous avec mon mari. Vos maris essaient de faire des affaires. Ils achètent des camions, les escroques. Ils achètent des taxis, les escroques. Ils achètent des émissions, les escroques. Ils construisent des maisons, les escroques. Leurs frères, les escroques. Leurs amis, les escroques. Parce que tout homme, à un moment de sa vie, pour gagner plus, veut être salarié quelque part stable, mais avoir des petites affaires. Quand il essaie de le confier à ses amis, on le bouffe. À un collaborateur, on le bouffe. À son frère, on le bouffe. Il ne peut même pas dire. Aucune femme n'a jamais bouffé son mari. Dieu a créé la femme pour s'occuper des affaires de son mari. Si ta femme prend les loyers pour toi, il faut aller dormir, tous les loyers seront là à l'heure. Aucun locataire n'aime que la femme du propriétaire vienne chercher l'argent. Ou bien, Eric. C'est pour ça que Dieu a fait les femmes. Quand tu vas en famille, si tu es honnête avec ta femme, tu te dis, ton frère que je vois là, sache comment tu vas faire avec lui. Tel ami que tu vois là, il faut te méfier. La femme est mise à côté de l'homme. S'ils font vraiment un, en esprit et en vérité, pour le compléter, le protéger, le soutenir, le fortifier, voir ce qu'il ne peut pas voir, discerner ce qu'il ne peut pas discerner, faire ce qu'il ne peut pas faire, s'occuper des relations sociales, s'occuper de la famille. Ouais, des endroits où je n'ai pas envie d'aller, mon époux gère et j'ai la paix. Ma mère arrive ce soir, c'est mon épouse qui s'en occupe. Est-ce que moi j'ai ce temps-là? Mais les hommes laissent leur femme aller souffrir comme secrétaire, comme comptable, consort. Ça les oblige à payer beaucoup de domestiques. Pendant que leurs femmes travaillent, pendant que les femmes travaillent, elles ne sont pas libres. Qui prend vos maris? Les jeunes célibataires qui sont chômeuses, elles n'ont pas de travail. Et toi, tu veux travailler, non? Oh, les gens qui ne travaillent pas, le temps. C'est les domestiques qui font le lit de leur mari. C'est les domestiques qui mettent là la douche pour le mari. Bon, même quand elle voyage, c'est les domestiques qui font l'eau pour le mari. C'est dans ça que tout se passe. Ce n'est pas le plan de Dieu pour la femme. Et toute femme va souffrir à essayer d'avoir une grande carrière professionnelle. Et regardez la santé, je n'en ai pas de nom. Quand il faut devenir madame députée, madame le ministre, madame le DG, c'est toujours sacrifice de leur famille. Toujours. Je ne connais aucune femme qui a été loin dans la vie politique sans sacrifier sa famille. Parfois, elles organisent des mariages, on paye des gens pour être des maris, pour sauver la face, mais personne ne se trompe. Ou bien, vous avez peur encore de la vérité? Répète la vérité. Est-ce que je mens? Je ne sais pas de quoi toi tu parles, mais moi je sais de quoi je parle. Et le problème, c'est que ces femmes-là souffrent. Mais personne n'a le courage de les regarder en face pour dire, ta souffrance vient de cette désobéissance à Dieu. Oh, elle a besoin de le lui dire. Moi, j'ai parlé à une d'entre elles, j'ai une amie. Elle s'appelle Paul. Ça fait 15 ans qu'elle est maltraitée dans son boulot. Harcelée par son patron, on a fini par la vider. Elle est dans un désespoir total, mais elle a accepté Jésus. Et quand je voulais lui en parler, mon épouse dit, celle-là, tu peux lui parler de ça? Je lui ai dit. Et comme par hasard, elle est tombée sur notre émission jeudi dernier où je parlais de ça. Mais elle m'a écrit, dit, c'est incroyable comme tu as raison. Tu as résumé toute ma vie. Il y a des gens qui se disent, si tu le dis, ils ne vont pas te comprendre, ils ne vont pas t'en vouloir. Dites la vérité, ce n'est pas vous qui devez choisir. Dites la vérité. Ne soyez pas lâche, ne soyez pas hypocrite. Vous avez la vérité, dites-la. Sans avoir peur. Vous êtes trop heureux. Et ce n'est pas de l'amour que d'avoir peur de dire la vérité aux gens. Si tu vois que quelque chose perd ton frère, dis-le lui. Il peut t'insulter, ce n'est pas grave. Prie pour qu'il comprenne un jour. Mais vous avez tellement peur d'être insulté, tellement peur d'être incompris, que vous ne dites pas aux gens ce qui blesse, ce qui leur fait mal, ce qui les détruit. S'ils ne savent pas ce qui les détruit, alors que vous le savez, comment ils vont être guéris? La personne te pose un problème. Tu sais très bien qu'elle a fait de mauvais choix, qu'elle désobéit à Dieu, qu'il n'y a que de la malédiction dedans, que le salaire du péché c'est la mort. Tu pries pour elle sans lui dire ce qui la paie. C'est de l'hypocrisie. Et les chrétiens sont des peureux. Et à Jésus, Jésus t'aime, on ne veut pas regarder le problème en face. Quand vous êtes avec quelqu'un, avec amour, mais avec vérité, dites la vérité. Et je termine sur ça. Le Saint-Esprit utilise la vérité que vous dites pour sauver les gens. La parole de Dieu est claire, hein? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais il ne peut pas convaincre quelqu'un auquel un homme n'a pas enseigné la vérité. Et personne ne peut enseigner la vérité à quelqu'un si vous n'allez pas prêcher l'évangile. Regardez le cas de Pierre avec Corneille, je crois. Corneille, parce qu'il était juste, il aimait beaucoup Dieu. Dieu a vu son cœur. Il ne connaissait pas Dieu, il était un peu comme un catholique, il faisait n'importe quoi. Mais il avait un zèle pour Dieu. Quand Dieu a vu son zèle, à vous l'honorer, Dieu envoie un ange. L'ange n'a pas pu le sauver. L'ange n'a pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Mais l'ange lui a dit, Corneille, envoie quelqu'un chercher Pierre. Parce qu'il faut que Pierre vienne t'annoncer la vérité. Quand l'ange lui a dit ça, lui l'a envoyé chercher Pierre. entends un autre ange à dire à Pierre là-bas, on va t'appeler chez Corneille. Toi, tu vas être tenté de dire comme les évangéliques, c'est un catholique, c'est un céleste, c'est un si je ne peux pas lui en faire l'évangile. Non, attention, c'est un frère. Il dit, mais c'est un animal impur. Ce que moi j'ai déclaré impur, toi tu ne le déclares pas pur. Tu vas lui enseigner l'évangile. Pierre se lève et va enseigner l'évangile à Corneille. Le Saint-Esprit était déjà préparé tout son cœur. Corneille et toute sa famille donnent leur vie à Jésus. Et ils se font baptiser du Saint-Esprit. Comme quoi Dieu même bénisse cela. C'est ça le défi de l'évangélisation. Quel que soit ce que le Saint-Esprit veut faire, quel que soit le réveil qu'il y a, quelle que soit l'onction que le Saint-Esprit a pour toucher quelqu'un, la personne ne peut pas être touchée sans que quelqu'un ne lui parle de la vérité. Et personne ne peut lui parler de la vérité si vous n'acceptez pas l'appel du Saint-Esprit d'aller avec amour, mais avec fermeté et avec clarté, dire la vérité. Et ça, les chrétiens ne le font pas. On fait des évangélisations superficielles de maison en maison. Jésus t'aime, Dieu donne ta vie à Jésus. Non, ok, bye bye. Jésus donne ta vie à Jésus. Non. Quelqu'un dit oui dedans parce que bon, lui, il a dit oui à tout pour voir ce qui va se passer. Bon, il paraît que lui, il a donné sa vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire quoi? Il ne sait pas lui-même, mais il a donné sa vie à Jésus. Et l'église est pleine de gens qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui ont donné leur vie à Jésus. Je mens ou bien je ne mens pas? Or, quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il rentre dans l'église, il détruit l'église. C'est comme si tu prends de l'eau qui ressemble à du vin, tu remplis ça dans le verre, tu es en train de diluer le vin. Il n'y aura plus de vin. L'église a des problèmes aujourd'hui parce que l'église est remplie de gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, mais qui sont là, considérés comme s'ils avaient donné leur vie à Jésus. Et on s'attend d'eux à des choses qu'on devrait attendre que de quelqu'un qui est vraiment chrétien. Or, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Ils sont nés d'hommes. La Bible dit que celui qui est né d'un homme n'est qu'un homme. Il faut être né de l'esprit pour être fils de l'esprit. L'église, c'est la réunion des fils de l'esprit. Avant d'être considéré comme un chrétien, il faut être né du Saint-Esprit. Quand vous bâclez l'évangélisation de quelqu'un, il est là comme un fils de l'esprit, alors que c'est un fils d'homme. Et c'est pour ça, moi, je demande au Saint-Esprit, je rêve du jour, et je crois que ça va arriver. Je vais faire en sorte que quand on annonce l'évangile à quelqu'un, il donne sa vie à Jésus. On doit l'enseigner, le baptiser d'eau et s'assurer qu'il comprenne le baptême du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien sans le Saint-Esprit, ce n'est pas un chrétien. Dès que les gens naissent d'esprit, le Saint-Esprit fait le reste. Mais quand quelqu'un dit, je donne ma vie à Jésus, et si tu t'arrêtes là, il est justifié pour l'éternité, oui. Mais rien ne s'est passé. Et parfois, les gens rechutent. Là, Jésus dit, allez, évangélisez-les, baptisez-les, enseignez-les. Nous devons enseigner les gens que nous évangélisons. On devient forgeron en forgeant. Tant que tu ne te jettes pas à l'eau pour parler à des gens, et là, que les gens posent des questions, si ce n'est pas... Tu ne t'attends pas pour répondre, mais la réponse te vient. Il pose une question, tu réponds. Tu finis par découvrir que finalement, bon, apparemment, tu t'en sors bien. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous dit, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas ce que vous direz. Je mettrai pas dans votre bouche. Mais tu es dans ta chambre, tu dis, bon, regardons, est-ce que je me rappelle tout ce qu'on a dit? Bon, je ne me rappelle pas de tout, hein, donc je ne suis pas encore prêt à aller évangéliser. Quand je vais avoir tout dans ma tête, je vais aller évangéliser. Tu n'iras jamais évangéliser. Même moi qui suis ici là, avant de prendre le micro, des fois, je dis, qu'est-ce que tu demandes à mon épouse? Je dis, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Rien ne vient dans ma tête. Et on va leur dire quoi aujourd'hui? Pas pleurer dans mes pleurs. On n'a pas le même problème. Quand toi, tu vas prendre le micro là-bas, quand le Saint-Esprit va se connecter maintenant, c'est encore forcé de prendre le micro. Mais il ne faut pas me fatiguer. Et c'est vrai. Quand je prends le micro, le Saint-Esprit fait le reste. Si je le dépose pendant quelques temps, je sens toujours l'onction. Après, je me décharge, je suis un homme ordinaire quand je ne suis pas sous l'onction. Et c'est pareil quand tu évangélises. Ce que tu vas dire à quelqu'un que tu évangélises, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton cerveau. Moi, il y a plein de questions que vous allez voir. Quand on me pose une question, j'ai toujours la réponse. Je n'ai pas la réponse avant de venir toujours. Mais quand vous me posez une question, la réponse vient au moment où vous posez la question. Il y a plein de questions qu'on m'a posées. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans des parties là-bas que je n'ai jamais lu pour donner des explications. Et c'est quand je quitte ici que je vais lire. Et je vois c'est ce qui est écrit. Je ne l'avais jamais lu. Mais quand vous posez la question, le Saint-Esprit me dit ça, je vous réponds. Ce n'est pas mon problème de connaître la Bible. Celui qui a écrit la Bible n'est pas mort, il s'appelle le Saint-Esprit, il est là. Vous n'avez pas besoin de bûcher la Bible avant d'aller évangéliser. Vous avez juste besoin de lui faire confiance. Il est votre partenaire. Partez avec le cœur, partez avec l'envie de gagner des âmes, partez avec l'envie de bénir, partez avec l'envie de servir l'amour, partez avec l'envie de sauver quelqu'un, partez avec la volonté de vivre Ésaïe 61 et laissez le Saint-Esprit. Si vous êtes parti pour vivre Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce que. Tu ne peux pas vouloir être dans ce parce que-là et l'Esprit du Seigneur ne va pas sur toi. N'attendez pas d'être prêt. Personne ne sera jamais prêt pour évangéliser, moi y compris. Et ne manquez aucune occasion pour enseigner, pour édifier, pour fortifier, pour courager, pour encourager, pour exhorter. C'est un travail permanent. Des fois, vous allez pouvoir parler une heure de temps. Des fois, c'est deux phrases que tu dis à quelqu'un. Des fois, c'est un mot que tu as dit à quelqu'un. Tu peux croiser quelqu'un, il est découragé, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dis, mon frère, du courage. Dieu s'en occupe. Et tu t'en vas. Tu n'as dit que ça. Mais des fois, moi, ça m'arrive dans la vie, on te dit un mot, tu as l'impression que c'est Dieu même qui te parle. Les deux phrases que la personne a dit sont tellement exactement ce que tu demandes. Peut-être qu'il te l'a dit, Seigneur, tu es où? Et qu'elle dit, ne t'inquiète pas, mon frère, Dieu est avec toi. Il t'écoute, il sait tes problèmes, il va te bénir. Toi, tu as dit ça quand tu continues. La personne est glacée. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire dans sa vie. Dieu vient t'utiliser pour lui dire exactement ce qu'il a envie de lui dire. Tu viens de transformer la vie de cette personne. Il va se dire, au cœur de la défaite, au cœur des problèmes, Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il ne m'a pas oublié. Il va te dire, mais tu, un jour tu m'as sauvé, tu m'as dit, tu as dit moi. Toi, tu as oublié. Ça t'est venu à l'esprit. Tu t'arrêtes, tu prophétises, tu continues ton chemin. C'est ça le chrétien. Quelqu'un dit, ah, j'ai besoin de 1 000 francs, donne-moi. Ne dis jamais, tu n'en as pas seulement. Moi, je n'en ai pas. Mais le Dieu que je sais peut pouvoir. Je prophétise au nom de Jésus que ce besoin soit pourvu. Ou Dieu te donne l'argent, règle ton problème autrement. Mais avant la fin de cette journée, ce problème sera réglé au nom de Jésus. Et tu continues ton chemin. Tu peux même l'oublier. Quand tu vas le voir, il va te témoigner que tu sais, tu as dit tel, à peine tu es parti, le problème a été réglé. C'est comme ça que Dieu veut que nous travaillions. Il veut que nous, puisque nous avons le Saint-Esprit, que nous utilisions le Saint-Esprit pour servir les gens. Mais si vous regardez trop, est-ce que je peux? Est-ce que je suis éloquent? Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que ça va me bénir? Est-ce que je vais être exaucé? Est-ce que je suis fort? Est-ce que j'ai l'onction? Est-ce qu'on m'a consacré? Toutes ces questions-là reviennent à vous, le moi qui doit être crucifié à la croix. C'est votre moi qui vous empêche de rendre ministère. Aucun de nous n'a rien en lui qui peut rendre ministère, moi y compris. Si nous rendons ministère, c'est parce que Christ est en nous. Tu n'es qu'un tonneau vide. Tu n'es qu'une coquille. Ce qu'il y a dans l'œuf, ce n'est pas ton problème. Ne te demande pas si tu peux, parce que tu ne peux pas. Je te l'affirme, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais. Il dit, fortifie-toi dans sa force toute puissante. Celui qui, par là, sa puissance qui agit en toi, peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, souhaiter. La puissance est là. Ne demande pas la puissance, elle est là, utilise-la. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi qui avance comme celui qui a la foi. Démontre. Il n'a pas appelé, il ne m'a pas envoyé à prier. Oh, je prophétise. Non, 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 non. Vous devez aider les gens à découvrir la vérité, à vivre la vérité et à le pratiquer. En ne comptant sur cela que sur le Saint-Esprit. Parce que c'est son boulot à lui. Il y tient plus que vous. C'est les gens que lui l'a créé que vous sauvez. C'est ses enfants que vous sauvez. Donc, contrairement à ce que vous pensez, Dieu est plus préoccupé par le salut de ces gens-là que vous. Il n'y a personne que tu vas rencontrer et tu t'inquiètes plus pour lui que Dieu. Dieu s'inquiète pour tout le monde plus que vous. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui s'inquiète pour quelqu'un plus que toi d'avoir pitié. Il a pitié plus que toi. Il veut juste que tu te rendes disponible pour qu'il t'utilise. Il ne veut pas que tu dises, l'enfant là a faim. Hein? Il veut t'utiliser pour lui donner à manger. Elle dit, Seigneur, j'ai vu un enfant qui a faim, sauve-le. Alors que tu as dans ta poche de quoi demander à la vendeuse de bain qui est là, Dieu donne des bains, il va manger. La Bible dit, tu n'es pas sérieux quand tu vois quelqu'un qui a faim. Tu dis, Dieu te bénit, tu le renvoies. Alors que tu es en train de manger, il est venu te voir en train de manger. Tu dis, bon, tu as faim, Dieu te bénit, il va te donner à manger, il faut partir. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui font ça. La capacité de Dieu commence là où ça va être la tienne. Il faut d'abord que toi tu fasses, au nom de Dieu, tout ce que tu peux faire avant de demander à Dieu de faire le complément. Si tu ne fais pas ce que tu peux faire et que tu demandes à Dieu de faire le complément, Dieu ne fera pas sa part. Parce que toi, tu n'as pas fait la tienne. Il n'y a pas de jour où vous serez prêt. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous ne serez jamais prêt. Allez sur le terrain. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on en donnera de grandes. La seule manière de recevoir l'onction, d'avoir la puissance, de voir ses ministères développer, c'est d'aller pratiquer. Allez rendre ministère. Allez sauver les gens. Allez bénir les gens. Vous avez quoi à perdre? Quelqu'un malade, bon, moi je suis rien, moi je lui ai dit, je suis rien, viens, je prie pour toi. Et il s'en va. Ça marche, c'est tant pis. Ça ne marche pas, c'est tant pis. Quand tu es dans ce cœur-là, ça marche toujours. Mais si tu dis, bon, je suis un grand prophète, hein. Il faut prouver que je suis un grand prophète. Ça, c'est pour de l'orgueil que tu veux faire ce ministère-là, c'est pas pour l'amour, ça ne marchera pas. Moi, je ne suis rien, mais venez, nous allons parler à Dieu. S'il veut, il vous bénira. S'il ne veut pas, c'est qu'il a une raison, qu'il vous éclaire au moins sur ce qui ne va pas. Tu es en ministère. Si tu es vraiment concentré sur Jésus, tu ne peux pas avoir peur de rendre ministère. On va s'en arrêter là. Pas besoin de donner des cours d'évangélisation à tout le monde, mais pratiquez. Bénissez les gens. Soutenez les gens. fortifiez quelqu'un. Tu es dans la rue, faites un exercice, par exemple, vous prenez une rue, vous baladez, vous voyez quelqu'un triste. Maman, ça ne va pas. Dieu est avec vous, il va vous bénir. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. De même que tu ne donneras rien à ton enfant s'il viole tes lois. Pas parce que tu n'en as pas, mais parce que tu es obligé à se discipliner. Dieu ne te donnera rien tant que tu ne l'obéis pas. Il faut découvrir comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Et tout le reste suivra. Maman, que Dieu te bénisse. Tu vas voir, il va se révéler à toi. Hein? Que Dieu te bénisse. Et tu continues. Tu crois que tu as joué? Ça peut changer la vie de cette femme-là. Et généralement, elle va commencer à se poser des questions. Amen, mon fils. Merci, mon fils. Ah bon? Tu crois? Mais comment ça? Voilà, maintenant tu peux rentrer. Toi, tu dis peu de choses. Si elle n'est pas ouverte, bénis quelqu'un, n'a jamais tué quelqu'un. Tu continues ton chemin. Mais si elle montre une ouverture, elle commence à te poser des questions, elle commence à te parler, tu peux embrayer. Aller du plus simple au plus compliqué peut-être. Mais ne reste pas dans votre chambre pour dire, bon, maintenant, Seigneur, comment je vais faire? Il faut que je fasse un grand programme, on va faire ci. Non. Sors de ta maison. Tu vas voir des gens qui ont besoin de Dieu. Tu vas voir des gens qui ont faim. Tu vas voir des gens qui sont tristes. Tu vas voir des gens qui ont des soucis. Et vous dites, oui, on ne sait pas, bon, je n'ai pas d'occasion, je ne suis pas fort, bon, comme je suis un jeune chrétien. Il y a du boulot, réveillons-nous. Et c'est quand tu fais ces choses-là, Dieu crée des miracles. Les miracles te fortifient toi-même. Ils te donnent encore plus d'onction. Et tu vas de plus en plus loin. Et Dieu commence à faire de grandes choses dans ta vie. Même ta bénédiction financière vient de là. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Quand tu travailles sur ton âme, quand tu grandis spirituellement, quand tu sers Dieu, cela te fait grandir spirituellement. Ton âme grandit proportionnellement à la croissance de ton âme. Au prorata de la croissance de ton âme, tu vas être en bonne santé et prospérer à tous égards. Avec Dieu, la prospérité et la bonne santé sont comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne bouge pas beaucoup, tu vas rester longtemps dans la même situation de pauvreté et de maladie. Si ton âme grandit vite, tu vas prospérer vite. C'est pour ça que l'Église est globalement pauvre. Parce que les âmes des chrétiens, généralement, ne progressent pas très vite. Le tout n'est pas d'être secoué, d'être impressionné, c'est d'aller pratiquer ça. La meilleure manière de le pratiquer, c'est de le pratiquer là où vous êtes. Un client vient te voir, bénis-le. Tu croises un frère, bénis-le. Tu croises une soeur, bénis-la. Tu croises ton père, prie pour lui. Tu croises quelqu'un qui a des difficultés. Ne manquez aucune occasion, au moins de dire que Dieu te bénisse. Et si quelqu'un vous pose une question, ne dites jamais, je n'ai pas le temps. Asseyez-vous, répondez à ces questions. Si vous arrivez aux limites de ce que tu sais, pense à nos téléphones, vois quelqu'un qui en sait plus que toi, envoie-le lui. Mais ne marchez plus à côté de la misère comme si vous n'aviez rien vu. C'est bon? Je vous en prie. On va faire la prière de clôture. Prions. Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je sais que tu es amour, que tu nous as toujours aimés, que ta présence au milieu de nous est totale et parfaite. Merci Seigneur pour chacune des âmes, chacune des personnes, chacune des vies ici que tu vas encore toucher ce soir. Je veux maintenant sanctifier ce vin, sanctifier ce pain. Je consacre ce pain comme étant ton corps qui a été brisé à la croix. Je le consacre comme ton pain que nous allons maintenant prendre, ce pain que nous allons prendre pour re-signifier à la création, pour re-signifier à Satan, que comme eux, ils sont déchiquetés. Tu as déjà déchiqueté à la croix la malédiction. Tu as déchiqueté la chair à la malédiction. Tu as déchiqueté les infirmités, nos handicaps, tout ce qui est mauvais, tout ce que Satan a semé dans nos vies a été brisé à la croix. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution